Bonjour et bienvenue sur Gameblog, chers amis. Nous voilà pour le podcast réuni. Le numéro 505.
J'allais dire, c'est le numéro du podcast réuni.
Exactement. Avec Plume à mes côtés, à ma gauche.
Ouais.
Comme souvent, mais pas tout le temps. Thomas et Romain, qui
Yo.
M'accompagnent.
Tous deux à ta droite.
Exactement.
Yo les gamers.
Eh bien, aujourd'hui, on va parler de quoi en fait? De la semaine qui est assez riche quand même.
Plein de
parler littérature, cinéma,
et
musique.
Et chaussons aux pommes.
Ouais, voilà. Et du et nouveau cuisine. Livre de Thomas Piketty. Voilà.
C'est vrai?
Ouais.
Ok, bah vas-y, commence.
Ok.
Non. Non, en fait, on va parler de plein de choses parce que l'actualité est quand même énorme en cette semaine, n'est-ce pas? Avec notamment la fameuse Switch Lite.
Ah!
Que j'ai toujours pas ramené à la maison.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire, tu l'as volé ou tu l'as
non,
laissé?
Non, j'ai pas réussi.
Ah bon?
Bah non, tu m'as mis un coup de latte donc.
Les consoles disparaissent moins maintenant.
Ouais, c'est bizarre.
J'ai remarqué.
Ouais, c'est vrai.
Bon, en plus de la Switch Lite, on va évidemment parler de la Mega Drive Mini hein, que vous avez décortiqué de A à Z et on vous a même fait une petite vidéo.
Ah, on l'a dévissé et
sympa
tout.
Dessus,
on a fondu les matériaux.
Et du coup, maintenant, c'est une Mega Drive 8K surpuissante. Bien sûr, il y aura l'anniversaire, le hors-jeu. Il y a 10 ans sur Gameblog et voilà
et puis entre les deux consoles
c'est
il se passe un
beaucoup.
Truc hein. T'as oublié le match de l'année quand même
et le match de l'année
ouais.
Mais le... ça j'allais le dire à la fin
bah c'est... oui mais c'est entre, comme ça entre les deux
c'est vrai entre Link's Awakening Switch et Until Goose Game
ouais.
Je pense que ça va être très très compliqué de savoir
ça va
qui...
être chaud
qui va remporter ce duel fratricide
ouais. Faites vos paris les gars
exactement
oh, oui.
Tout à fait mais évidemment comme toujours on commence par le win et le fail, mais cette semaine c'est un petit peu particulier. Plume, tu vas nous dire pourquoi notamment.
Bah parce qu'on hésite entre win et fail.
Exactement.
Tout simplement.
Alors de quoi s'agit-il? Vas-y, raconte-nous tout.
De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une décision qui a été donnée par le tribunal de grande instance de Paris ce 17 septembre. Le TGI de Paris donc qui a reconnu aux consommateurs le droit de revendre leurs jeux achetés sur Steam.
Bah c'est
ce
bien.
Ce qui est une décision qui est assez énormissime. Hein. C'était l'UFC que choisir qui avait attaqué Valve en 2015 et voilà c'est aujourd'hui qu'on on a droit à cette décision.
Au verdict.
Et au verdict, absolument. Et donc, il y avait plein de clauses que l'UFC que choisir avait décrétées, enfin, signalées comme illégales vis-à-vis des droits des consommateurs. Et en France, bah, on a dit oui. Oui, il n'y a pas de problème, c'est illégal.
Pas de problème.
Et entre autres, en plus du fait de pouvoir revendre leur jeu, il y a d'autres choses sur lesquelles l'UFC Que Choisir a eu gain de cause, j'ai envie de dire. Il y a 14 clauses qui ont été déclarées comme abusives dans les...
conditionnalisation,
voilà, c'est le truc que je lis jamais, donc du coup je le retiens pas.
Mais qui lit ça, franchement
Pourtant tu cliques et tu dis oui, j'ai tout lu et
bien
je
sûr,
suis d'accord.
Bah, regardez l'épisode de South Park là-dessus, et ça vous donnera envie de lire les
d'accord.
clauses.
D'accord.
Comme
le fait par exemple que Valve s'octroyait le droit de conserver les fonds de ses utilisateurs lorsque ces derniers quittaient la plateforme.
Lorsque ces derniers mouraient.
Bref, le juge a statué. Évidemment, Valve fait appel de la décision, comme ils l'ont signalé à nos confrères de VG247. Et en attendant, ça donne envie de soulever plein de questions. Parce que d'un côté, effectivement, quand on achète des jeux en dématérialisé, la donnée du bon, bah c'est ma possession, c'est à moi. Mais si un jour je veux m'en séparer. Bah oui, ok, c'est cool de pouvoir le revendre. On est tous d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas quelque chose qui va avoir des répercussions sur les développeurs et les éditeurs, notamment au niveau des tarifs qui pourraient être appliqués si jamais cette décision évidemment était validée et s'étendait à d'autres territoires par exemple. Nous, le premier truc auquel on pense évidemment, c'est les indés qui ont déjà beaucoup de mal et qui ont eu un épisode de grogne là ces derniers temps parce que Valve ne donnait
c'est
pas de visibilité
Steam,
ouais, sur Steam. Parce que Steam ne donnait pas de visibilité suffisante dans l'espèce de compartiment. Ouais. Oui, en ce moment, où n'oubliez pas ceci. Ouais. Beaucoup de développeurs indés trouvaient qu'ils avaient, enfin, ils n'étaient
pas
suffisamment
mis en avant. Hein.
Bah, t'es vite noyé dans la masse.
Exactement.
En fait,
il y en a tellement. Ouais.
Sachant qu'il y a tellement de jeux qui sortent, c'est très difficile de réussir à survivre dans des cas comme ça. Donc, si jamais la décision vraiment passait, était appliquée à plusieurs territoires, comment les indés quelles seraient les répercussions sur les développements indés, des jeux qui parfois coûtent 10 euros? Qu'est-ce que Valve pourrait faire pour essayer d'équilibrer le fait que bah, ça devient un jeu d'occasion et que bah, finalement il faudrait peut-être augmenter un petit peu le prix pour que tout le monde s'y retrouve, sauf les indés évidemment, qui eux déjà n'ont pas beaucoup de visibilité et surtout n'ont pas sont déjà globalement dans la merde à chaque fois qu'ils sortent un jeu sur Steam.
J'avais vu quelque chose, ça concernait pas je crois que les jeux indés,
ouais.
Mais ils parlaient de la moyenne des sommes générées par un jeu sur Steam en un an. Et ça prenait aussi bien en compte les gros que les tout petits. Et la moyenne, c'était 11 000 dollars par an de revenus avec un jeu, ce qui est ridicule.
C'est ridicule.
Si c'est...
Ça couvre rien du tout, ça.
Si c'est basé, ça couvre rien.
Bah, sachant qu'il y a une trentaine de pourcents qui va directement à
ouais,
Steam.
À Steam
en plus.
Il y a de gros problèmes de visibilité, d'algorithmes et de choses comme ça liées à Steam. Donc oui, c'est super fâcheux pour certains développeurs particulièrement. Mais d'un côté, c'est pas le problème du consommateur, quoi.
Non, c'est sûr.
Le consommateur, lui,
c'est pour ça qu'il a ses droits.
Voilà.
Forcément, il est du côté du consommateur, puisque c'est son rôle.
Ça soulève plusieurs questions aussi, parce qu'on parlait du
Thomas,
prix.
Vas-y, ouais.
Mais à quel prix tu revends ton jeu en démat,
ouais.
En fait, est-ce que t'enlèves la part de ce que Steam a pris une première fois? Est-ce que tu dois le revendre au même tarif?
Bah, je pense qu'il y aura un plafond, un machin,
non, mais
une limite.
Pour l'instant, c'est
ça.
Une question à laquelle on n'a pas la réponse, mine de rien. Donc, comment va se passer la revente? Est-ce que toi, tu vas seulement céder une partie de ce que t'as payé? Enfin,
bah, ça soulève plein de questions. Tu sais, ils peuvent décider de faire comme eBay, par exemple. Où ils se prennent un pourcentage parce qu'ils estiment qu'ils ont mis ils t'ont aidé à mettre en avant ton annonce, etc.
Oui, on a mis en relation l'acheteur et le vendeur. Donc
oui, parce que là, ouais, c'est pas vraiment directement du particulier.
Et on sait que Valve a l'habitude de toujours se rincer un petit peu dès que possible, en tout cas sur toutes les transactions.
Mais là, ce qui serait super fourbe, c'est que pour le coup, Valve arriverait à se faire de l'argent deux fois sur le même jeu.
Et plus. Parce que toi, t'as acheté un jeu d'occasion.
Oui.
Bah, du coup, tu peux encore le revendre, etc.
Ah
etc.
Oui, ça pourrait être.
Et je me pose la question parce que du coup, si tu peux toi-même déterminer ton prix, bah, on se doute que ça va tout tirer vers le bas à la Price Minister, enfin Rakuten
oui,
maintenant, et qu'en gros,
il va y avoir une petite concurrence.
T'auras toujours un type qui va mettre ça à un centime de moins, et puis l'autre aussi, et puis du coup, on va dégringoler.
Mais c'est pour ça que tu dis qu'il y a sûrement un plafond.
Ouais,
et voilà.
Où il y a tellement de possibilités, ou alors il décide de devenir une sorte de Micromania virtuelle. Où ils décident à combien sont revendus les jeux d'occasion.
Il y a forcément un prix plancher pour éviter que
parce que tu vois,
que les gens
si la justice finit par les obliger à revendre leurs jeux, après, je ne sais pas s'il y aura des conditions, mais eux peuvent en établir ensuite. Ah oui, vous pouvez revendre vos jeux, mais ça vous coûtera tant. Nous, on accepte de les revendre que tel prix pour tel jeu, etc. Enfin, ça peut créer des bouleversements massifs. Et un autre bouleversement auquel on ne pense pas forcément, mais c'est le système de jurisprudence. Et la jurisprudence que cette décision, si elle finit par être entérinée, ça pourrait avoir un impact sur le PlayStation Store, sur l'eShop de la Wii, de la Switch. Mon cerveau est jet-lagué, hein, je suis désolé.
Mais là, ça serait en France, parce que la législation en France ne sera pas
forcément la même.
En Belgique ou ailleurs.
Je parle évidemment que de la France, mais ça pourrait avoir un impact sur le marché Xbox Games, etc.
Et on pense pas aussi à des boutiques comme GOG qui est sans DRM, pour qui ce serait peut-être un peu plus compliqué aussi de gérer ce genre de choses. Bon, c'est difficile de se faire un avis.
Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien?
Ouais,
écoutez,
exactement.
Vous pouvez le dire.
Non, puis c'est une première décision en plus.
Vraiment, je pense vraiment qu'aux indés d'abord, parce que oui,
il y a un appel et tout. Donc
la visibilité, le fait que les jeux coûtent pas cher, déjà qu'ils ont une sacrée merde sur les bras avec la décision de Steam d'autoriser les remboursements si t'as joué moins de 2 heures à un jeu, sachant qu'il y a des jeux qui se finissent largement moins de 2 heures du côté des indés et qu'il y en a qui se gênent vraiment pas pour demander un remboursement une fois qu'ils ont fini le jeu. Ça me paraît compliqué tout ça quand même.
Bah, c'est assez complexe, c'est assez compliqué, ouais. Donc on suivra l'affaire de près de toute façon. Et...
Mais le côté.
Mais ce n'est pas fini.
Non, mais juste une dernière chose. Le petit côté positif du truc pour nous consommateurs, c'est que ce genre de décision, ça renforce l'aspect propriété de ton jeu dématérialisé. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui restent attachés au support physique. Parce que dès que c'est dématérialisé, c'est très nébuleux, tu vois. Si la plateforme ferme, qu'advient-il de tes jeux? Si toi, tu quittes Steam, qu'advient-il de tes jeux? Etc, etc. Et dans plein de cas, t'as pas l'impression vraiment d'être propriétaire du jeu que t'as pourtant payé. Et donc, ce genre de décision, bah, par exemple, comme le fait de récupérer ton argent si tu décides de fermer ton compte Steam ou des choses comme ça, bah, c'est quand même pas trop mal pour le consommateur. Ouais. Et là, je parle vraiment purement pour le consommateur.
Bah, clairement.
D'accord. Parfait, ben voilà pour ce win ou fail. À vous de nous en parler dans les commentaires si vous voulez.
Et à faire à suivre évidemment.
Exactement, tout à fait. Et si on passait tout de suite par le plus grand des hasards au. Bah je sais pas, personne ne veut le dire.
Ce teasing.
Tu sais pas parce que t'as pas ta fiche ou
tu sais pas si j'ai sous les yeux là. Là dans ta tête. Il y a 10 ans sur Gameblog. Que s'est-il passé il y a 10 ans sur Gameblog, mon cher Thomas Pilon?
plein de prédictions incroyables.
Nostradamienne, c'est ça?
Exactement, wow. Nostradamienne. Bah, écoute, c'est toujours rigolo de reprendre les propos qui ont été tenus à cette époque-là, 10 ans après. Et on va commencer par le chéri de Romain, le très sexy...
Wada.
Wada, le président de Square Enix, en tout cas à l'époque, qui s'exprimait pendant, en parallèle du Tokyo Game Show, puisque c'était évidemment le TGS il y a 10 ans aussi. Et bah, il revenait justement sur ce qu'on appelait encore le Project Natal à l'époque, toutes les tentatives de contrer Nintendo de la part de Sony et de Microsoft avec des dispositifs de motion gaming. Et lui pensait que ça aurait un impact assez limité, en tout cas à court terme, sur le jeu vidéo, et que du coup, sa prédiction, c'était que Nintendo devrait bien revenir à une interface utilisateur beaucoup plus simple, abandonner en fait le motion gaming de la Wii, parce que ça n'allait pas forcément bien marcher, et proposer en fait une nouvelle Wii qui se débarrasserait de la Wiimote et qui reviendra à quelque chose de beaucoup plus classique. On sait évidemment que ça n'a pas été le cas et que le motion gaming, ça a quand même un tout petit peu cartonné parce que la Wii s'est genre vendue comme jamais. Donc bon, ce cher Wada n'était pas très clairvoyant à cette époque, comme quoi il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte tout le temps. Et dans le genre prédiction, là pour le coup, il y en a une qui s'est réalisée, mais pas aussi rapidement qu'on l'aurait imaginé, c'est Suda Goichi. Le très alcoolique parfois Suda Goichi,
tout de suite,
qui sortait quelques temps avant No More Heroes 2 sur Wii, une fois de plus, et qui parlait déjà de l'après, puisque le jeu vidéo c'est parfois toujours une fuite en avant. Là du coup il parlait du troisième épisode en disant que bon voilà, sur Wii son travail était terminé et qu'il faudrait revenir sur la Wii 2 ou en tout cas une prochaine console pour voir arriver No More Heroes 3. Alors, on sait depuis quelques mois que No More Heroes 3 arrivera bel et bien, puisqu'il avait été annoncé dans le cadre de l'E3 2019. Et entre-temps, on a eu ce triste épisode Travis Strikes Back que Tiger avait testé pour nous et n'avait spécialement pas apprécié. Donc voilà, c'est pas sur la Wii 2 que sortira No More Heroes, ce sera plutôt, j'imagine, sur Switch.
La Wii 3.
Voilà, celle qu'on appellera la Wii 3, qui avait donc récemment été annoncée. Donc il aurait quand même fallu 10 ans pour qu'on entende à nouveau parler d'un nouveau No More Heroes.
Certainement parce que personne d'autre n'a voulu du projet avant ça.
Voilà, il fallait remettre un petit peu de rond dans Grasshopper et on sait que les dernières productions du studio n'étaient pas forcément mémorables. Hein. Bon nombre de jeux sont...
Il est un peu en dents de scie, Suda Goichi.
Ouais, puis plutôt fatigué en ce moment.
Pas comme nous, en fait.
Ouais, nous aussi, on est en dents de scie.
On est Getifa.
Et pour finir sur ces prédictions du passé qui nous parlaient du futur, en l'occurrence, c'était une fois de plus autour du Project Natal que certains grands game designers du Japon s'exprimaient. Keiji Inafune notamment, mais il y avait aussi Peter Moore qui donnait son avis. Et un certain Hideo Kojima, qui déjà faisait parler de lui à l'époque, et trouvait que Project Natal, c'était quand même vachement chouette, que c'était quelque chose d'assez innovant, et il se permettait de déclarer que la caméra avait un potentiel certain pour changer radicalement le style de vie des joueurs, et que du coup, il serait très intéressé pour développer un jeu qui tirerait profit du Project Natal, qui est donc devenu Kinect, évidemment, vous l'avez déjà deviné. Il comparait ça... Comparer ça au passage de la 2D à la 3D dans les années 90. Alors, j'ai cherché au cas où on aurait loupé le jeu de Kojima sur Kinect.
Quant à Hideo Kojima,
je ne l'ai pas trouvé. Oui, parce que c'est évidemment toi, Trace, qui nous racontait un petit peu toutes ces déclarations.
C'est que les formulations n'ont pas changé en 10 ans.
De toute façon, tu, comme d'habitude, lis le style de la news et tu sais rapidement que c'était Trace qui nous en parlait, puisque cet instrument que tu qualifies de béni des dieux, par exemple, ça ne pouvait être que toi. Bref, voilà, donc Kojima qui était hyper emballé à l'époque et on sait ce que ça aura donné, puisque Kojima n'a sorti aucun jeu à ce jour qui tirait parti de Kinect. Donc, voilà. Comme quoi, l'emballement, des fois, est un petit peu à mesurer.
Alors que ça aurait pu, parce qu'au tout début, bien si sûr, tu regardes au moment où ça sort, Kinect, ça se vend très très bien.
Bah, ça a cartonné. Ouais.
Le démarrage du truc, ça a très bien marché. Donc, ça aurait pu attirer plus de développeurs. Après, ils se sont peut-être rendus compte rapidement que les limites, des limitations
en termes de gameplay,
que permettait le truc. Parce que, entre le teaser, par exemple, du Star Wars Kinect, et le jeu final obtenu, il y avait quand même un monde d'écart. Hein. Ou même la démo de Milo, etc. Les interactions proposées, etc.
Ah oui, non, bah, c'était jour et la nuit.
Ça, ça n'a jamais sorti. Donc. Ouais. entre les promesses et, les, et la concrétisation, il y avait un gap assez, assez
important. Bah, laissons-lui 10 ans, on verra bien si en 2029 on aura
le
droit.
Non, mais tu vois, pour le coup, je le disais, si vous n'avez pas vu le plateau Space Channel 5 VR que j'ai fait au TGS, donc je me répète ici, mais quand j'ai parlé avec le réalisateur des deux premiers Space Channel 5 et que je lui demandais pourquoi maintenant, quoi, pourquoi
si longtemps après.
Ouais, pourquoi si longtemps après, est-ce que ça avait été difficile à mettre en chantier, etc. Et il me disait qu'à chaque génération, il avait proposé à Sega de faire un nouveau Space Channel 5. Il me disait, j'en ai proposé un sur Wii avec les Wiimotes. Il en a proposé un sur Kinect. Donc aussi pareil avec les up down ça aurait pu le faire, et à chaque fois c'est Sega qui disait non c'est pas le bon moment. Okay. Donc tu vois, je pense
et donc on nous ressort Chuchu Rocket, tout va bien.
Non mais là pour le coup ils se sont dit, quand ils ont eu le PlayStation VR, ils ont dit là c'est le bon moment pour sortir un Space Channel 5. Mais tu vois, il avait quand même proposé, et ça se trouve les designers là dont on parlait qui étaient intéressés par Kinect, par Natal, peut-être qu'ils ont proposé à leur supérieur, ouais, j'ai une idée, et que c'est finalement au-dessus d'eux que ça a coincé, tu vois. Donc peut-être qu'il y a eu des choses en chantier sur Kinect dont on n'a même pas idée, quoi.
Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. La chronique nostalgique il y a 10 ans.
Exactement.
Sur Gameblog. On racontait beaucoup de bêtises.
Exact. Et si on passait maintenant à une autre console de Nintendo?
Le truc jaune là,
qui s'appelle la Nintendo Switch Lite, mesdames et messieurs, thème numéro 1 de ce podcast 505. Alors Thomas et Plume, vous avez joué, moi j'ai joué aussi de toute façon. Toi Romain, tu as pas eu.
Moi je l'ai tenu un peu en main, je l'ai pas essayé.
Il l'a caressé.
Et la question c'est, faut-elle l'adopter?
Faut-elle
l'adopter?
Ouais, parce que qu'il est difficile d'être le roi de la France.
Soit j'ai été trahi.
Faut-elle l'adopter?
Alors je sais pas qui l'a écrit, mais c'est toi qui l'a écrit. Du coup j'ai lu comme un
je
con.
Je pense que c'est une personne très souriante là sur le plateau.
qui s'est pas relu.
Exactement. Et voilà. Moi comme un con je relis, je suis désolé, c'est faut-il l'adopter évidemment. Voilà. Mais comme on est un peu tous fatigués, donc forcément.
Mais non, mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? On est tous en méga forme.
Tout le monde a ses spécificités techniques et tout ça sous les yeux.
Bah on les connaît puisque vous l'avez unboxé tous les deux.
Voilà, vous pouvez l'avoir. Regardez, il y a une super vidéo. Valable pour tous maintenant, donc tout le monde peut voir la vidéo dans la news.
Avec des effets spéciaux et tout. Vous allez voir, vous allez halluciner sur cette unboxing.
Tout à fait. Donc en fait, je crois qu'il n'y a que 3 coloris. Hein,
pour l'instant, ouais, il y en aura un autre le 8 novembre quand Pokémon
Épée bouclier
sortira.
Exactement. Et Garfield aussi.
Et Garfield. Oui, c'est vrai qu'ils ont prévu de faire un spécial Garfield. On oublie à chaque fois. On est obligé de citer Garfield une fois par podcast, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pour un copain, vous inquiétez pas.
Il faudrait qu'on fasse une vidéo unboxing du truc où c'est juste le jeu normal, tu sais, sans collector, sans rien.
Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on va, on peut vous renvoyer directement sur la vidéo d'unboxing qu'on a fait. On a aussi parlé de son poids. De mémoire, c'était 275
grammes toute seule. Là où c'est 295 grammes pour le plateau de la Switch normale.
Non, 297.
297. Sans les Joy-Con.
Et 398 avec les deux Joy-Con pour la Switch
normale.
Donc
on perd une centaine de grammes quand même en mode portable.
Et franchement, ça se sent. Enfin, moi, je sais que la prise en main, c'est. Tu sens que c'est un objet qui est ultra bien fait, ultra compact en fait. Parce que évidemment les deux Joy-Con ils bougent pas quand tu les utilises, hein. Ils sont directement fondus dans la masse, si je puis dire. Et du coup la prise en main elle est super bonne, quoi. Enfin moi je trouve que la prise en main est vraiment très bonne.
Parce qu'on a des mains, on va dire petites moyennes.
Mais moi j'ai des petites mains, donc c'est vrai que pour moi c'est bien.
On a des mains calibrées, voilà.
Alors à chaque fois ils pensent aux japonais. Tout
alors
temps.
Je vais te dire, pour moi c'est l'inverse.
Toi, c'est pas possible.
C'est l'inverse total.
Ah ouais. Bah ouais, c'est possible,
en fait moi j'ai des mains assez grandes, et quand je la tiens en ayant les index sur les gâchettes. Ouais. Elle arrive à la moitié de ma paume.
Ah ouais, non, mais toi, ça doit être gênant. Ouais.
Donc, c'est super inconfortable. Et dans le cas de jeu où tu utilises la croix directionnelle, eh ben, je suis obligé de mettre la main à la moitié de la taille de la console pouvoir jouer. Parce que si je tiens les L et R, je peux pas utiliser la croix directionnelle. Ouais. Elle est trop mal placée.
Ça oblige à tordre véritablement le pouce, en fait, et c'est assez inconfortable.
C'est inconfortable.
À
et donc, il faut que je baisse ma main pour pouvoir jouer avec la croix. Mais dans ce cas-là, ça rend l'utilisation du bouton L et ZL inconfortable. Ah, ouais. En fait, elle est trop petite pour moi.
Pourtant, il y a des astronautes qui jouent sans problème.
Bah, ils ont dû prendre que des gens avec des petites mains, parce que moi, elle est.
Mais c'est vrai qu'il y a que des enfants ou des femmes, a priori. À part les astronautes.
On va pas se mentir. Hein. Globalement, c'est un appel du pied pour les enfants. Oui. La Switch Lite.
Alors pas que de mon point de vue. Parce
d'accord.
Que...
Ok, vas-y Thomas. Et c'est que nos petites mains comme nous. Donc.
Elle a quand même pas mal de qualités en plus de son prix, je trouve. On va évidemment parler de la croix multidirectionnelle.
Exactement.
Qui est, on va dire, l'apport majeur sur cette version-là, vu que, comme tu le disais, les Joy-Con n'ont plus besoin d'être détachés, plus besoin d'avoir ces quatre boutons un peu relous là en façade, on a enfin une vraie croix. Et bon, on a pu la tester un petit peu sur des jeux 2D, des plateformeurs pour lesquels ça marche plutôt bien. J'ai pas eu de véritables soucis. Par contre, vous avez pu le voir dans la vidéo qu'on a fait au moment de votre unboxing, messieurs. En ce qui concerne le versus fighting, où il faut sortir des inputs un peu plus précis, c'est pas encore fantastique.
C'est plus compliqué, ouais.
Poufy vous l'a montré, vous pouvez revoir la vidéo qui est sur Gameblog. Sortir des Hadoken, des Tatsumaki, etc. Au stick, c'est immédiat, il n'y a pas de souci. À la croix, c'est vachement capricieux, j'ai trouvé. Donc la croix en soi, c'est un ajout que je trouve vraiment sympathique. Surtout si vous avez l'habitude de faire des jeux indés, justement des jeux 2D, pixel art, etc. sur Switch. Mais et si vous cherchez véritablement de la précision, c'est peut-être pas encore vraiment gagné. Je trouve qu'elle manque un tout petit peu de répondant. Je sais pas ce que vous en avez trouvé, vous. Ça manque de clic, tu vois.
Moi j'ai essayé Mario Kart avec, donc pas un jeu de baston, je t'avoue, parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas essayé de jeu de baston, mais j'ai essayé Mario Kart 8. Tu parlais de la croix là, on est d'accord, hein, d'accord, ok. moi je trouvais ça quand même jouable à la croix. Après, c'est vrai qu'on s'y fait et on va automatiquement toujours sur le stick par habitude. Mais la croix, ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais
moi, pas du tout.
Évidemment, ouais. Il faut quand même jouer un petit peu pour éviter peut-être de se faire mal au doigt. Mais en général, j'ai souvent mal au doigt parce que j'appuie très très fort sur la croix de direction.
Toi, un bourrin ? Non.
Et peut-être qu'effectivement, au bout d'une demi-heure, une heure, ça m'aurait un petit peu fait mal. Mais du coup, là, tu te reposes sur le stick analogique et tu changes de temps en temps si tu veux. C'est bien de proposer ça, moi je trouve. En tout cas, c'est mieux que les quatre boutons pour se diriger dans les menus, pour les plateformeurs, etc. Ça, pour ça, pour moi, c'est vraiment la croix idéale. Puis Nintendo, au niveau de la croix, c'est quand même les meilleurs. Donc bon, genre de croix, je veux dire.
Ouais, ouais.
Ils sont très très forts. Et je pense qu'elle est. Maintenant, il faut voir dans le temps si ça va être solide, si ça va pas s'enfoncer, si.
Et là où c'est intelligent, justement, c'est que moi, les rares fois où je la dock, c'est justement parce que j'ai besoin de précision et donc je la dock pour prendre la manette pro. Le chapitre 9 de Céleste en ce moment, pour ne pas le citer, qui exige vraiment, vraiment d'être précis. Là, du coup, la contrainte disparaît puisque la croix dont j'ai besoin sur la manette pro, finalement, tu la retrouves directement intégrée sur la console. Donc, quelque part, c'est quand même assez intelligent de l'avoir proposé comme ça. Même si on l'a pas rappelé parce que, à force de le dire, tout le monde doit le savoir, mais vous ne pouvez pas la docker. Nulle part, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de moyen d'afficher une image.
On ne peut pas la poser sur table non plus.
Ailleurs
non.
Que, effectivement,
il n'y a pas la tige à l'arrière pour pouvoir la tenir.
Ils ont fait le minimum, pour le coup, c'est une vraie portable, hein. C'est ce qu'ils ont dit de toute façon.
Mais puis on perd d'autres fonctionnalités, hein. Pas de HD Rumble.
Non, mais ça, c'est compensé par le son. Vibration.
Oui, mais c'est pas HD.
Quand tu mets à fond.
Ça, c'est encore autre chose, mais on perd des trucs, mine de rien.
La caméra infrarouge aussi, évidemment, qui était sous le Joy-Con rouge, qui disparaît.
Mais les gars, elle est moins chère aussi, la console. Hein.
Donc, elle est moins chère, mais bon. Les vibrations, quand même.
Après, à part Nintendo Labo et P1 to Switch, qu'on me cite les jeux dans lesquels on utilise la caméra, tu vois, c'est encore un gimmick assez sous-exploité.
Ça se trouve
pour
dans Luigi's. Non, mais dans Luigi's Mansion 3, on s'en servira.
Le côté multijoueur n'importe où. Ça c'était chouette, tu vois.
Oui, mais elle reconnaît les autres manettes.
Oui, mais tu peux plus la mettre en mode tabletop, tu vois. Elle a plus de trépied, elle a plus de trucs comme ça.
Dans les pubs, tu vois qu'ils sont plusieurs à avoir la Switch Lite en fait pour jouer ensemble.
Oui, ça fait les affaires de Nintendo évidemment. Après, moi, j'attends de voir si le problème de Joy-Con drift a été
définitivement réglé.
Dans cette version, parce que s'il est toujours là. Dans cette version Lite, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer, parce que autant, même si c'est chiant sur une Switch normale, tu changes de Joy-Con, là il faut carrément envoyer toute la console en réparation. Donc j'imagine, je pense sincèrement que le problème du Joy-Con drift, Nintendo en avait bien conscience en interne avant que ça commence à faire du bruit. Donc j'ose espérer qu'avant d'avoir préparé cette console, ils ont trouvé le moyen de résoudre le truc.
C'est ce qu'on attendrait d'eux, en tout cas.
Ouais. Mais j'attends de voir. Après, ça confirme un peu cette version Lite, ça confirme un peu l'image que j'ai toujours eu de la Switch, c'est-à-dire que c'est avant tout une console portable. Mais c'est vrai que moi, pour l'utiliser, alors même si la mienne, je l'utilise à 99,9% en console portable, cette Switch Lite me fait pas envie parce qu'elle est trop petite. C'est le confort, je sais, là en la tenant 5 minutes, je me suis rendu compte tout de suite que ça allait pas le faire pour moi et que j'aurais plus mal aux mains qu'autre chose en y jouant. Donc moi je reste bien fidèle à ma Switch normale pour l'instant.
D'accord. Qui va rester d'ailleurs le modèle phare pour Nintendo. Faudra voir comment va se passer comment vont évoluer les ventes de la Switch Lite, parce que, enfin, je sais pas, c'est difficile de sentir un véritable engouement pour l'instant.
En attendant, en bourse, ils étaient chauds, hein, parce que hier,
l'action
Nintendo était au plus haut depuis plus d'un an, ou je sais plus quoi, depuis super longtemps. L'arrivée de la Switch Lite plus le nouveau Zelda. Ça a bien plu aux investisseurs et aux actionnaires, etc.
Ce qui est logique en même temps. Donc,
Après, pour ceux qui n'ont pas encore acheté la console éventuellement, moi je ne l'aurais pas aujourd'hui. Je prendrais une Switch Lite.
Tu prendrais une Switch Lite. Plus une Switch Lite ou une Switch normale.
Que moi je suis comme Romain, j'y joue vraiment qu'en mode portable et que j'ai des mains relativement standard voire petite, j'ai moins ces problèmes de prise en main et d'ergonomie, et pour le coup 200 balles vu la ludothèque de la Switch, même sans les vibrations HD, même sans la caméra infrarouge, même sans le fait de pouvoir détacher les Joy-Con, si j'avais pas de Switch aujourd'hui, je pense que je m'orienterais vers la Switch Lite, parce que c'est une formidable console portable, pardon.
Ouais, et c'est la couleur jaune est bien aussi.
Moi je l'aime bien en
Toi t'aimes pas?
Non,
moi j'aime pas.
Moi j'aime bien, je trouve ça classe.
Classe.
Ouais. Non, moi, je la trouve jolie. Ouais.
Ça change un petit peu de ce qu'on a.
Ah, ça, c'est sûr, ça change.
C'est vrai. Ça change du noir des consoles habituelles, comme le Mega Drive Mini, tu vois.
Mais la Mega Drive Mini, elle était comme ça à l'époque, donc ils n'allaient pas la sortir.
Ils auraient pu sortir plein de couleurs, hein, je sais pas.
Mais vous, du coup, si vous l'aviez pas la Switch, est-ce que vous partiriez sur ce modèle-là ou est-ce que vous...
Oui, je pense, ouais. Franchement, je pense. Après, sans le dock, c'est vrai que c'est un peu chiant de pas l'avoir sur l'écran, mais honnêtement, je joue pas vraiment sur l'écran en vérité. Donc
pour moi c'est la console des transports, c'est la console des pauses-déj, c'est
la console des vacances,
console du peuple quoi.
J'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être vengé par rapport à ce qui se disait il y a quelques années.
Ah mais moi le doc si on est plusieurs, je parle de la télé en fait, docké pour la télé, je m'intéresse pas trop en fait. J'ai jamais vraiment accroché. C'est tellement plus beau quand t'as ton petit écran, machin.
Mais tu vois là, paradoxalement.
C'est magnifique quoi.
Paradoxalement, je vais faire mon chieur, le mec jamais content.
Oh, le lourd.
C'est que moi là, j'aurais pas de Switch. Bah, je prendrais quand même, outre les considérations de taille, je prendrais quand même l'original. Parce que j'aime pas quand on me retire des possibilités.
Je suis assez d'accord, je comprends ce point de vue. Moi aussi, quand tu me posais la question, j'étais en train de me dire, mais attends, mais il y a quand même le Rumble, etc. Machin.
Je préfère avoir le choix.
Tu vois, c'est bien d'avoir les sticks en plus, les accrocher sur notre manette, etc. Donc,
je l'utilise qu'en portable.
C'est compliqué.
Mais j'aime bien me dire que si, pour X ou Y raison, j'ai envie de la brancher sur ma télé, bah, je peux le faire. Alors que là, toutes ces possibilités, on te les retire.
Ça avec, coûte 100 balles. Voilà, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Et si tu arrives à la faire tenir, là pour le coup, elle tient debout sur la table du podcast, tu y connectes une manette pro par exemple et hop, tu retrouves tes vibrations HD dans la manette pro. Il y a une solution si jamais on veut.
Une solution à tout. Ben voilà, c'est parfait, on a fait le tour de la Switch Lite. Hein,
donc on rappelle, elle coûte 199 euros là à sa sortie.
Et dans
vendredi.
Un an, ils nous feront la Switch Lite XL.
Non, plus.
Uniquement portable, mais avec un écran plus grand.
Voilà, exactement.
Alors moi, je voudrais juste le Joy-Con avec la croix multidirectionnelle. Tu vois, il te sort.
Mais officiel.
Mais officiel, évidemment. Évidemment. Avec le Rumble et tout, parce qu'il en existe un chez Ori, mais. Non. Déjà, c'est pas.
Ah oui, mais non.
Non, mais c'est pas une croix multidirectionnelle à la place des quatre boutons. C'est le stick qui est remplacé par une croix. Donc, ça marche pas de la même manière. Nintendo nous fait un Joy-Con gauche avec une croix en dessous du stick. Là, je dis alléluia.
Il pourrait le faire, mais jusqu'à présent, je pense que ça allait à l'encontre de l'image.
Ça flingue la stratégie.
Voilà,
en plus,
du fait que tu passes un Joy-Con et l'autre personne prend le deuxième, et là, tu peux jouer à deux. Alors que si sur un des Joy-Con, t'as une croix, bah, tu peux plus jouer comme ça. Quoi.
Mais sinon, t'emmerdes le monde. Et comme ça, t'es tranquille. Voilà. À bon entendeur.
Quand tu es. Je suis misanthrope.
Donc voilà, bah dites-nous ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous allez craquer ou pas? Est-ce que vous avez déjà une Switch? Est-ce que vous allez changer pour celle-là? On est curieux quand même de savoir.
Exactement. Dites-nous tout dans les coms et regardez la vidéo en question.
Beaucoup de pubs dans le métro japonais pour,
Paris aussi.
Pour la Switch Lite. Non, mais tu sais, dans le métro japonais, t'as carrément des écrans. Donc en fait, ils te passent des spots télé pour la Switch Lite dans le métro.
À Paris, t'as Link's Awakening et la Switch Lite.
Alors, Link's Awakening, la Switch et la Switch Lite. On n'oublie pas la Switch, elle est toujours positionnée sur les publicités pour l'instant.
D'ailleurs, je pensais à un truc, il n'y a pas de pack Switch Lite plus jeu.
Ça viendrait
avec Pokémon.
Donc, pour l'instant, non, il faudra attendre le 8 novembre pour la Switch Lite.
Donc,
Pokémon.
D'ici Noël, ils vont forcément en faire. Ça plus Zelda plus machin, c'est
pas,
sûr.
Pas forcément. Hein.
Ah bon?
Bah non, enfin, les trucs se vendent. Les trucs se vendent à part. Donc
non, non, mais je sais bien, mais pour vendre des machines.
Bah après, tu peux le faire en tant que revendeur à la limite. Hein. Tu crées toi-même ton bundle en bradant l'un ou l'autre.
Mais franchement, je serais étonné qu'ils en fassent pas quand même d'ici la fin de l'année.
C'est son premier Noël là.
Bah justement.
Donc.
C'est son premier Noël.
Laissons-lui le temps.
Exactement. Bon bah parfait, voilà ce qu'on pouvait dire sur la Switch Lite. Donc à vous de nous dire ce que vous en pensez, si vous allez craquer ou pas, et si Plume va voler cette machine ou pas.
Ouais, ouais, c'est bon.
Voilà.
T'as vu comme il la regarde?
Exactement, avec amour, mais sauf qu'il l'aura jamais. Ou alors dans la gueule. Passons au thème numéro 2. Et là c'est un duel.
Oh.
Encore plus fort que Booba versus Caris.
Ce fameux duel qui n'aura jamais lieu.
Exactement. Attends, on sait jamais, il peut y avoir encore un retournement de situation.
Ouais, ils peuvent se croiser à l'aéroport encore.
Link's Awakening Switch contre Untitled Goose Game. Je sais, ça fait bizarre de dire ça parce que ça a juste rien à voir, mais.
Oui, mais.
C'est deux jeux super mignons sur Switch. Voilà.
Et qui sortent le même jour.
Et qui sortent le même jour.
Bah, mignon, quoi. Il y en a un qui est plus mignon que l'autre.
Qui est pas mignon, oui. Hein.
C'est
un,
mignon versus relou. Ouais,
oui, vrai. Mais bon, c'est quand même mignon à regarder. De loin.
Bah, c'est surtout qu'on l'attendait comme un
Messi,
Game of the Year.
Comme le Messi.
Ouais. Comme le Gotti. Ouais,
les
vrai.
Deux, on les attendait comme le
là,
Game
les gens,
of the Year.
Ils doivent être en train d'halluciner, qui écoutent ou qui regardent le podcast. Comment ils peuvent oser mettre Untitled
Exactement.
Goose Game au niveau
mais
de Link's
parce
Awakening,
que c'est
quoi.
Ça l'entertainment, mais... on peut faire ce qu'on veut, c'est improbable et tout. Et puis voilà, c'est marrant. Quoi.
Mais c'est pas difficile. Depuis le premier trailer, on est tous d'accord pour dire mais le concept de Untitled Goose Game,
c'est juste une tuerie.
Extraordinaire.
C'est du Gotti.
Ouais, sur justement sur Thomas, tu peux nous en parler. T'as balancé ton test vendredi dernier, donc il y a pas de souci. Tout le monde l'a lu sûrement.
Vous voulez encore que je parle?
Et du coup,
les gens en ont marre, je pense.
Bah, je sais pas. Pourquoi.
Je pense que Plume va d'abord nous parler de son jeu qui est quand même un petit peu plus attendu.
Il est un peu plus attendu. On a déjà parlé la semaine dernière, évidemment, de Zelda Link's Awakening sur Nintendo Switch. Le test est évidemment disponible. Alors,
du coup, Poufy remet la vidéo de Zelda.
Voilà, exactement. Donc...
Désolé, Poufy.
Non, c'était l'introduction pour les deux, et maintenant, tu peux y aller.
Oh, bah, là,
oh brave lad, on y request.
Là, ce que je peux dire, c'est que techniquement, on a un potentiel GOTY avec Link's Awakening. C'est un jeu, évidemment, qui a 23 ans d'âge, un peu plus, puisqu'il est sorti à l'origine, 26 ans,
ouais.
Ce qui est sorti en 93 sur Game Boy, avait été réédité plus tard sur Game Boy Color dans sa version DX. J'ai passé une dizaine d'heures environ sur un nuage avec ce jeu.
C'est... Non, sur une île.
Non, sur un nuage.
Ok, d'accord.
Parce que si j'en dis trop, après, je vais tout balancer sur le jeu.
T'as flippé ou pas?
Non.
D'accord.
J'ai pas flippé du tout. Ça, c'est avec Star Wars Pinball que je vais flipper. Donc, c'est le même jeu qu'il y a 26 ans.
Sauf que c'est mille fois plus beau.
Extra beau, en extra mignon. Voilà, vous pouvez encore le voir, évidemment, puisque maintenant les vidéos sont disponibles en même temps que l'audio pour tout le monde sur Gameblog en ce qui concerne les podcasts. Même si vous n'avez pas vu auparavant d'autres vidéos, vous pouvez checker ça. C'est un gameplay assez extraordinaire, comme je le disais, qui est vraiment intemporel, qui, je vous dis, 26 ans plus tard. C'est toujours aussi ingénieux, c'est toujours aussi bien conçu, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur dans les donjons, ou même les boss, les différents items à ramasser qu'il va falloir les uns après les autres essayer pour progresser, comme ça se fait dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Metroidvania, mais même si bon, Zelda a fait ça bien avant. C'est aussi le, en plus d'être un jeu qui est très ingénieux et qui est vraiment dans la continuité de Link to the Past, forcément parce ça aurait dû au départ être Link to the Past version Game Boy, et puis ça a changé au dernier moment parce que les plans peuvent changer. Et donc c'est à la fois un jeu qui est ultra ingénieux avec plein de bonnes idées partout, ultra référencé, mais c'est aussi un jeu qui a une atmosphère, un univers qui est très particulier. Pour une fois, on n'est pas à Hyrule, on n'est pas en train d'aller chercher Zelda qui s'est encore faite kidnapper par Ganon. On n'a pas les mêmes quêtes. Alors, c'est une île qui est peut-être un peu plus petite, qui est très compacte par rapport aux autres univers de Zelda qu'on connaît, notamment Link to the Past, hein, qui est sorti un peu avant. Mais il y a beaucoup de choses à faire dessus. Il y a énormément de personnages
différents.
De personnages différents, qu'ils soient humains ou humanoïdes d'ailleurs, hein. Il y a aussi des animaux qu'on va croiser, avec qui on va beaucoup discuter. Il y a une ambiance qui est très spéciale avec Link's Awakening, et Et il faut y jouer, voilà, il faut y jouer pour comprendre, parce que je peux pas vous en dire trop non plus sur sur la nature même du jeu. C'est encore un bijou et il faut absolument, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer, il faut absolument y jouer.
Et les musiques, elles tuent aussi, non, je crois.
Oh bah les musiques, c'est des réorchestrations de génie pour les musiques. Et donc, il faut absolument y jouer. Si vous connaissez la version Game Boy et vous l'aimez, n'hésitez pas à refoncer dessus. Il y en a qui vont vous dire que la durée de vie est pas excessive. Bah écoutez, moi j'ai fait à peu près 10 heures et je trouve que c'est plus que satisfaisant de jouer 10 heures à un Zelda qui a un tel niveau de finition, de comment dire, d'ingéniosité au niveau du game design, avec plein de petits secrets rigolos. Et ensuite il y a des chutes de framerate, ça c'est vrai. On peut pas les nier.
Parlons des choses qui fâchent un peu, ouais.
Qui sont un peu plus visibles peut-être sur la télé, même si en portable aussi, hein, ça arrive que on ait des moments où c'est plutôt fluide et puis d'un coup c'est plus fluide du tout et ça se voit assez bien. Mais malgré
est-ce
ça,
que c'est vraiment gênant ça.
Jamais. C'est pas forcément gênant. Jamais. À aucun moment quand ça intervient, c'est vraiment à des moments où c'est pas très important. Donc, et vous pouvez essayer aussi avec le mode boost de la console, ça changera pas grand chose malheureusement. On dirait que les développeurs ont eu quelques soucis d'optimisation, à mon avis, pour ce qui est de la gestion des éclairages et du nombre d'éléments à l'écran. Ils ont peut-être pas su comment le gérer au niveau programmation. Y a des chances qu'un patch quand même puisse corriger ça un jour, à mon avis. Mais c'est vraiment peut-être les deux seuls éléments vraiment négatifs qu'on peut citer. Alors il y a après le
truc de donjon,
la création de donjon ouais, qui a été ajouté, qui est pas extraordinaire du tout. C'est un petit plus, voilà. C'est un petit plus, histoire de dire, voilà, je vais quand même faire des petits donjons que je vais partager avec mes potes, même si c'est à partir d'éléments préfabriqués qui sont déjà dans le jeu et qui font qu'on a qu'on peut créer des niveaux dépareillés. Après, il y a une notion de partage aussi qui est pas forcément optimale avec les amiibo uniquement de la gamme Zelda. On enregistre les donjons dessus, on les transporte, on les amène chez un ami. Autant passer par du online ou encore autre chose pour essayer de rendre ça plus excitant. Moi, je m'en tiens au jeu de base. C'est une merveille. Point.
Il y a pas le mode photo de la version DX aussi.
Non, c'est justement ce qui a remplacé le mode de création de donjon et la petite souris. Hop, c'est parti.
Mais
c'est
tu fini. Vois, après la transformation visuelle du jeu pourrait faire penser, si tu t'es pas trop renseigné, faire penser à un remake. Mais non. Alors qu'au fond, c'est plus un remaster. C'est l'équivalent de Crash Band, de ce qu'ils ont fait avec Crash Bandicoot, parce que la structure même du jeu
ou Shadow of the Colossus
est exactement la même, quoi. Les trucs sont placés au même endroit, il y a aucun changement sur le scénario, la structure
il y a des choses qui ont été changées.
Ça reste quand même un énorme remake pour moi. Enfin, je veux dire, ça n'a
non,
rien
c'est pas
à voir.
Un remake. Un remake, c'est quand tu changes des trucs dans la narration. Là, ils ont juste refait les graphismes.
Ah oui, après, il y a des éléments qui ont été changés. Déjà, il y a un mode de difficulté supplémentaire pour les gens qui trouvent que trop facile.
C'est un remake.
Pour commencer. et il y a la fameuse quête des coquillages où c'est plus 20 coquillages qu'il faut trouver, mais maintenant c'est beaucoup plus. Beaucoup
Mario
plus que le double.
Hein.
Je vous donne pas le chiffre parce que j'ai pas envie
de spoiler à fond.
De vendre la mèche. Mais vous allez bien galérer pour trouver tous les coquillages. Déjà les 20 à l'époque c'était pas facile, et encore il y en avait 20, mais en fait il y en avait 26, et c'est à 20, une fois que vous aviez trouvé le 20ème, les 6 autres ils n'existent plus, ils disparaissaient du jeu.
Ah, je me souviens plus de ça.
Il y a quelques petits changements,
et la poule
mais
est
en soi c'est le même jeu qu'il y a 26 ans ou un peu après, parce que c'est le DX. Vu qu'il y a le donjon des couleurs que moi personnellement je trouve pas génial en plus, mais après à côté de ça je vois pas comment on peut pas craquer devant ce jeu, quoi. C'est pas possible.
Me faire l'avocat du diable, est-ce qu'il est pas un tout petit peu chiche en nouveauté, justement? Est-ce qu'on aurait pas pu
espérer avoir un
tout petit peu plus?
Ils ont jamais dit on va refondre le jeu complètement, on va mettre des nouveaux items, on va rajouter du contenu comme il y en a. Non, ils ont dit c'est le même jeu qu'à l'époque, et voilà, et on s'en tient à ça. Et en s'en tenant à ça, ça reste quand même une merveille. Donc je vois pas ce qu'on peut dire de plus.
Moi je préfère un remake de cette qualité. Si on appelle pas un remake, c'est pas
grave. Mais tu voudrais pas Link to the Past comme ça?
Ah bien sûr, c'est évident.
Ton jeu préféré?
Évidemment.
Tu t'imagines un petit peu avec ce design là en plus?
Mais oui, parce que même si t'as tellement apprécié la première version, s'ils le refont comme ça, c'est tellement joli, c'est tellement mignon, c'est tellement bien fait. que tu dis mais oui, pas de souci, allez-y hein, les gars.
Puis c'est génial.
Pour... Remake, hein, je m'en
puis fous, c'est
hein.
génial pour les
pour
les
la
jeunes joueurs.
Génération, exactement. Ouais.
Enfin, je veux dire, tu peux encore jouer à Link's Awakening version Game Boy ou Game Boy Color aujourd'hui, mais ça.
Non, pour nous, ça n'a plus aucun intérêt.
Ça pique un peu les yeux,
ça
quand même.
Ça n'a pas le même charme et tout ça.
Et puis la progression sur la map est plus simple avec celui-ci, puisqu'on a plus ce découpage ouais. en casque qu'on avait dans l'original, qui était forcément une limitation technique qui disparaît avec la Switch.
Ouais, moi qui suis en train de me faire l'original que j'avais pas fait à l'époque, c'est vrai que
ce
système par case et par écran qui défile comme ça.
Mais ça, c'est que pour l'extérieur. À l'intérieur, ça reste comme ça parce qu'il y a une notion de découverte.
Oui, pour les donjons,
différents mécanismes.
Ça peut se comprendre. Ouais. Mais
oui,
sur
pour les donjons, c'est logique.
L'exploration du monde extérieur, c'était pas très pratique.
Bah non, ça, c'est beaucoup plus fluide et tout ça.
Après, j'aimerais bien qu'ils continuent en fait de faire des épisodes 3D, mais que la série aussi reste fidèle à ses origines comme ça, de 2D top-down avec des donjons qui alternent avec des phases d'exploration, un truc assez classique mais qui marche toujours super bien quoi. Donc je sais pas, un Link's Awakening 2 ou un nouvel épisode avec cette DA, ce serait intéressant.
Ah bah qu'ils peuvent la garder hein, celle-là hein. Ils changent de DA assez souvent, c'est quand même d'ailleurs un cas assez rare dans le jeu vidéo.
Tout à fait, c'est vrai.
C'est pour pouvoir faire des personnages dans Smash Bros. C'est comme ça, t'auras une version
et des amiibos.
C'est ce que j'allais dire.
Et plein d'amiibo rigolo.
Mais c'est vrai qu'ils ont fait tellement de designs différents pour Zelda et à chaque fois, ça fonctionne plutôt pas mal en fait.
Oui, oui.
On se rappelle quand même quand Wind Waker est arrivé, tout le monde a eu des.
Ah ouais, j'ai trouvé ça super mignon, mais
c'est
bon,
vrai,
après,
mais
j'étais un des rares.
T'as eu beaucoup de gens qui étaient dubitatifs après.
Pourquoi
après la démo les premières démos soi-disant GameCube
Space World,
de Link en super réaliste et tout qui était super beau, tu disais oh la vache ça va tuer,
ça rien à voir.
Et puis en attendant Wind Waker a résisté au ravage du temps là où d'autres épisodes 3D ont pris un petit coup de vieux quoi. Wind Waker tu le ressors aujourd'hui, il est encore fabuleux parce que la DA est somptueuse et hyper intelligente.
Et celui-ci on le ressortira dans 15 ans et on dira ah ouais quand même ça marche toujours.
Il vieillira bien celui-là je pense, il n'y a pas de souci.
Comme toi.
Comme Goose Game, dans 20 ans, on le ressortira, on dira putain, mais ça tue la gueule.
Donc, moi, techniquement, je m'en sortis en test avec un GOTY possible. Voilà, mais Untitled Goose Game, je crois que c'est pas trop le cas.
Ouais, ça fait tiep, hein, c'est ça.
Je crois que Thomas est deg. Voilà.
Non, sur le papier, on était à Untitled peu près tous Goose d'accord Games. Pour dire qu'Untitled Goose Game, c'était un potentiel GOTY parce que. On rappelle quand même le concept si vous ne l'avez pas suivi.
Même sa démarche est relou.
Malheureusement,
ouais, mais oui.
C'est un jeu qui, comme son nom l'indique, vous place dans la peau d'une oie. Une oie, effectivement, turbo-relou. Dont la mission, en fait, va être de progresser à travers des niveaux.
À travers le temps.
Un peu inspiré d'une espèce de bourgade anglaise. Et pour avancer, il faut faire chier le monde, en fait. Vous n'avez pas d'autres possibilités que ça. Vous commencez dans votre mare au canard et puis vous arrivez rapidement aux portes d'un petit jardin. Et votre première victime, c'est justement ce pauvre jardinier
que vous voyez là en vidéo là,
qu'on a vu effectivement sur les images de Poufy, et vous allez lui pourrir sa journée en fait en ouvrant par exemple l'eau, en tirant la porte, en lui piquant des clés, en le faisant tomber pour lui piquer son béret. Il y a plein de choses en fait qu'on peut faire avec cette saloperie d'oie, et franchement ça marche bien, c'est super rigolo. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les situations que vous allez rencontrer parce que on va y venir après, elles sont quand même assez peu nombreuses au final, mais sur le plan comique, putain, j'ai tellement rigolé en jouant à ce jeu. Plume rigolait encore tout à l'heure en m'attendant un trailer.
Mais non, mais le trailer de lancement, il est parfait pour te décrire ce que c'est que le concept du jeu, à savoir t'es une oie, OK, t'es juste un animal sur pattes avec deux ailes et un bec, mais rien qu'avec ça. Mais t'es une arme de destruction massive,
t'es
mais surtout de destruction
saloperie.
De couilles. Voilà, tu prends les couilles des gens et tu les détruis en cacardant, en faisant en comme ça. Tu pètes les couilles de tout le monde et c'est génial. Rien que pour ça, ça mériterait que le jeu soit extraordinaire. Mais bon, après, on peut pas gagner à tous les coups.
Non, pourtant c'est bien fait. Hein. Je veux dire, Romain, tu parlais de la démarche de l'oie. Il y a un vrai travail justement sur le langage corporel, le déplacement de l'oie déjà, qui est hyper réaliste. Alors vous pouvez cacater, comme l'a précisé.
Cacarder,
pardon. Cacater, c'est autre chose. Non, mais parce que je te vois et je pense à d'autres trucs.
Et tu cacates.
Et agiter un peu vos ailes, baisser, en fait pour passer justement sous certains éléments du décor, et surtout choper avec votre bec 1,5 milliard de trucs que vous allez pouvoir relâcher un petit peu partout. Et les humains, c'est pareil en fait, les humains ne parlent pas, ils ont des petits phylactères des fois qui expriment l'objet vers lequel ils vont aller. mais c'est leur langage corporel en fait qui montre à quel point vous leur cassez les burnes, et c'est super bien fait. L'attitude corporelle est vraiment géniale. Et bah, là vous vous dites bah, c'est super, on rigole, on découvre des trucs, c'est un jeu d'aventure assez assez original, et voilà, enfin les images parlent d'elles-mêmes. Le problème, et eh ben, c'est que la fin du jeu, elle arrive hyper vite et de manière assez inattendue. Moi franchement, je pensais que le jeu allait m'emmener dans une autre
genre
direction,
une vingtaine de niveaux, et que
qu'on allait partir dans autre chose.
Bah, surtout après je sais pas, un an de retard, je sais plus.
Il presque été... un an de report, ouais, parce qu'on avait pu y jouer, je crois, à la PGW 2018. Il y avait une borne de démo avec le premier niveau, justement, du jardinier, là, de ce pauvre jardinier et de ses clés. Et bah, malheureusement, ouais, on fait quelques niveaux, et puis pouf,
ça s'arrête.
Le jeu s'arrête, en fait, et c'est vachement dommage, parce que dans chaque niveau, en fait, vous avez une liste d'objectifs à remplir. Une fois que vous les avez tous remplis sauf un, il y a un dernier objectif qui arrive qui va vous permettre de quitter la zone et d'arriver dans la zone suivante, et donc de redécouvrir des personnages, des règles, des objets avec lesquels interagir. Mais voilà, vous faites ces quelques niveaux et pouf, c'est terminé. En fait, le jeu vous envoie le générique et vous pouvez recommencer avec de nouveaux objectifs qui vont vous demander d'aller chercher un petit peu plus loin, de se dire que ah ok, tel objet il peut interagir avec tel autre, et donc je peux faire je peux combiner les deux. Mais ça reste les mêmes environnements, ça reste les mêmes situations, et du coup, même si on s'est vachement marré, le jeu est tellement bref, tellement court, que on garde un sentiment d'inachevé. En fait, il avait tellement de trucs à nous proposer, et il s'arrête très 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 vite, et je trouve ça super dommage, parce que vraiment le concept marche bien. Il est techniquement pas parfait, ouais. Il y a quelques soucis de collision, ce qui peut être un peu problématique parce que c'est un jeu d'aventure et de réflexion. Donc quand t'as cru en testant une possibilité à cause des collisions que c'était pas possible, tu vas partir sur une autre piste, alors que des fois en fait il fallait juste insister un tout petit peu, tu vois, pour pousser un objet le long d'un mur pour pouvoir grimper dessus, ce genre de truc. Mais voilà, malgré le fait qu'on rigole tout au long de l'aventure, c'est trop bref pour être vraiment la perle qu'on attendait. Le jeu, en gros, nous file un petit peu son intro, sa première partie, et en fait, ben voilà, il se barre en plein milieu, et c'est super frustrant malgré les objectifs que tu débloques après. Donc, ben, malheureusement, Untitled Goose Game, c'est pas le GOTY. Surveillez-le, gardez-le dans un coin de votre tête. Le moment où il sera soldé,
ouais,
vous pouvez vous jeter dessus, vous allez passer un super moment, parce que tout le monde rigole là en voyant les images que Poufy nous diffuse depuis tout à l'heure. Parce que c'est vraiment
ça.
C'est
vrai qu'il y a des perles quand même dans le...
C'est péter les roustons du monde entier, et rien que pour ça, c'est quand même vraiment génial. On peut faire plein de trucs avec cette oie à la con. Oui.
Par contre, l'oie, elle se fait jamais attraper, elle.
Si, tu peux te faire choper, mais on va juste en fait.
C'est animal friendly en fait.
On va te sortir d'une zone, tu vois. C'est genre, t'as rien à faire là.
Genre, il tord pas le cou et il l'avait pas dans son four.
Des fois, les humains te pourchassent en fait à coups de balai ou ce genre de truc, mais c'est juste pour t'écarter. Et dès lors que t'es sorti de leur zone, et bah t'es peinard. J'adore ce passage.
Le passage avec les télés.
Tu l'as fait ce passage avec.
Il est dans le test.
Ah d'accord, ok. Où tu te retrouves dans la télé en plusieurs exemplaires.
C'est fantastique. Et est-ce qu'on sait pourquoi elle fait ça? Est-ce que genre, il y a une justification, ou c'est genre.
Bah c'est noir, voilà, c'est tout.
Oui, on en c'est parlait noir. Avec Plumeau ce matin. En fait, la fin du jeu, tu comprends pourquoi elle est partie, quel était son objectif et pourquoi elle a fait ça. Donc,
bah c'est bien, au moins, il y a...
c'est très simple et très rapide. Mais il y a une justification au fait de sortir de sa mare, d'aller casser les couilles du monde entier pour réaliser un objectif assez précis.
Ouais. Bah c'est bien ça.
C'est un peu comme quand Trace se lève de son siège à un moment et,
voilà. Et qui défonce tout. Ouais.
Et voilà, exactement. Donc, et qui regarde ton bureau et que là il fait bah quoi de bordel là oh.
Exactement, non c'est pas vrai, le croyez pas, il est fou.
Donc voilà, c'est satisfaisant. Bah voilà, Untitled Goose Game.
C'est 7 satisfaisant même, je dirais.
Non, bah non, c'est 6 satisfaisant pour le coup.
Ah oui, merde, j'ai oublié.
Bah, raté.
J'avais complètement zappé.
Ah, tu vois, t'aurais dû te lever.
Ah ouais, t'avais vraiment mis une sale note en fait.
Non, c'est satisfaisant.
D'accord, ok.
Mais vraiment, vraiment trop court.
Et en plus, je crois qu'il est à 20€, hein, quelque chose comme ça.
Oui, ouais. Il est à 19,99€. Donc,
je sais qu'on n'a pas l'habitude de dire oui pour 20€, machin. C'est pas
le prix qui détermine.
C'est pas le prix
non,
qui
non,
machin.
Non, mais le.
Mais oui, vraiment, mais si ça détermine un peu.
Le
moi,
moment où
je vais
générique arrive, voilà. Et où tu te dis ah putain, c'est bah, oui, fini. Putain.
J'ai mis 20 euros là-dedans.
Il y a quelque chose qui se casse quand même parce que t'espérais vraiment, vraiment plus. T'espérais que le jeu allait te proposer plein d'autres situations et ça reste très, très réduit. Voilà, gardez-le à l'esprit.
Comme tu le disais, c'est le jeu typique à acheter à 5-10 balles maximum. Voilà.
À moitié prix, tu peux y aller. Ouais, parce que vraiment, vous allez rigoler. Matez les images si vous êtes impatient.
Moi, je vais être
rebelle,
je vais l'acheter quand même à ce prix-là.
C'est vrai?
Parce que j'ai envie de.
Tu vas l'offrir plutôt sur l'Epic Game Store?
Si, si, si tu veux.
Je te fais plume dans sa vie tous les jours. Il a envie de casser les couilles aux gens, mais il ose pas.
Mais non, mais
ça va lui permettre de.
Pour avoir fréquenté des oies, il va prendre de l'expérience et des putains de signes. Ces bestioles-là, c'est vraiment des ordures.
Ah oui, oui.
Ça peut être vraiment, mais ultra mauvais. Et savoir qu'on peut être
c'est ça
un
qui
truc
est génial.
Ultra mauvais, ça m'arrive jamais dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Du coup, je me dis être une oie, ça peut être un bon exutoire à la vie de tous les jours. Quand on regarde pas la formule.
Ouais.
Voilà.
Tu m'étonnes. Eh bien, merci messieurs, dames. Nous allons tout de suite passer au thème Number Three, qui est juste devant vous là, regardez la console là-bas.
Ah bon?
C'est le truc noir, là
Mini qu'on a reçu il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et du coup, on l'a aussi décortiqué et on va en parler tout de suite là.
Bah c'est là que je comprends pas parce qu'en fait, à la base, la sortie de la Mega Drive Mini devait être mondiale.
Et ben, elle est presque mondiale.
Ils ont retardé de quelques semaines en Europe alors que la console est clairement prête pour l'Europe aussi.
Depuis what, 1000 ans? Bah, c'est une question de marketage, ça, c'est tout.
C'était pas une question de production?
Peut-être de production.
C'est ce qu'ils avaient dit, mais ouais. Visiblement elle est prête.
Ouais, bah ils en ont fabriqué une. Allez, 4-5 pour que nous on soit servis. Ouais. Et puis voilà, comme d'habitude.
T'es pas prêt. Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance de.
Ouais, bah regarde, ils nous ont dit quand même.
En avant-première.
Pour la presse, il y en aurait très peu.
Oui, oui, tout à fait. Ah, bah je me suis jeté sur le truc et hop là, ça a été envoyé dans la foulée, ma foi. Et du coup, ça nous a permis de regarder. Enfin, surtout Plume et Thomas qui ont fait un unboxing, hein, si je dis pas de bêtises, et puis un petit test de la console. Alors du coup, comme ça de prime abord, qu'en pensez-vous?
Déjà
sur sa petite gueule, elle est trop mignonne quoi. Mais bon, c'est dans la veine des autres NES, Super NES et machin.
Elle a franchement une tronche formidable.
Une tronche improbable.
Une belle petite gueule d'amour.
Je crois même que je préfère son design à celui de la NES Mini.
Oui, parce qu'elle s'y prête peut-être plus aussi avec le truc bombé dessus et
après,
tout.
Après, la Super NES Mini me plaisait bien aussi. Non, mais c'est vrai que avoir cette version miniaturisée de la Mega Drive, c'est.
On dirait une SD, une vraie forme SD. Quoi.
Bah,
c'est toujours intéressant. Puis surtout, c'est les petites caractéristiques rigolotes. Hein. Je crois que Romain a un peu. En tester une quand il a envie parce qu'il a les mini cartouches.
Ouais, il a les capacités.
J'ai quelques mini cartouches. Ouais.
Ouais, bah tu peux. Et donc, en fait, il y a des détails de déco comme ça qui sont vraiment amusants.
Ils sont surpuissants.
Dessus, mais après, moi, j'étais pas un Mega Drive fan. Hein,
c'est vrai.
Mais
bah moi, si.
Pas du tout. Donc,
première chose.
Donc en fait, je la veux pas.
D'accord.
Non, je plaisante.
Première chose, c'est que Sega a fait partie des premiers à vendre la licence de la Mega Drive à des constructeurs tiers pour faire des consoles dites mini qui ressemblaient pas forcément à la Mega Drive
avec le succès que l'on sait.
Et c'était souvent c'était toujours désastreux en termes de qualité.
C'est un désastre.
L'émulation était pas bonne, il y avait un lag pas possible dans les manettes. Pour celles qui permettaient de lire les cartouches,
l'image était ignoble.
L'image était moche, le son était mais désastreux aussi.
Il était pourri, il était
en fait, c'est la première fois qu'on a une vraie une Mega Drive mini digne de ce nom.
De qualité. Ouais.
Après, comme disait Plumeau, il y a effectivement tout un tas de petits détails. Alors là, Poufi, il est pas sur nous, mais donc il y a le petit clapet qui permet.
Puis à l'audio, il va pas être sur nous.
Qui
hein.
sert
à l'audio, il va pas être sur nous non plus.
Il y a donc le petit clapet qui, le port cartouche en fait, qui est fonctionnel entre guillemets, même s'il y a pas de cartouche. Il y a l'extension pour brancher le méga CD que tu peux ouvrir aussi. Ce sont des détails où le volume, enfin le bouton de pour régler le volume audio, il existe aussi. Ce sont des détails, mais sur ce genre de machine, on veut ce genre de détails en fait. On veut que ça soit fidèle.
C'est une machine de fan, donc
pour les puristes, comme on dit,
il faut penser
parfois
à ce genre de truc. Les ports manettes qui sont USB aussi sont positionnés en façade là où étaient positionnés les ports des manettes à l'époque.
Alors ils ont voulu jouer la nostalgie à fond, donc ils se sont basés sur ce que les gens avaient quand ils achetaient une Mega Drive une Mega Drive 1, parce que c'est le modèle Mega Drive 1 à l'époque, c'est-à-dire que c'est livré avec deux manettes trois boutons. Pour Street Fighter 2, particulièrement, c'est gênant parce que le gameplay était adapté à 6 boutons. Mais il faut savoir qu'il y a des manettes officielles 6 boutons qui sont proposées pour les gens qui auront particulièrement envie de jouer.
Qui auront déjà claqué 80 balles pour s'acheter la console.
Ouais.
En fait, ça le problème. Si j'ai un reproche, moi, à lui faire,
c'est
en version européenne en tout cas.
En tout cas, dans sa version européenne, c'est le fait qu'elle soit livrée avec deux manettes, 3 boutons. Ce qui est d'une part hyper relou pour Street 2 parce que vous devez appuyer sur Start en cours de match pour passer des points au pied. c'est à peu près n'importe quoi dans un jeu de versus fighting.
Oui, c'est un peu compliqué.
Mais en plus, au-delà de ça, on a des jeux de fin de vie de la console. On va revenir sur le line-up juste après. Mais on a des jeux fantastiques qui sont sortis sur la toute fin de la Mega Drive. Mais même quand tu joues, en fait, pour faire apparaître le menu qui va te permettre de sauvegarder, de charger une save ou de revenir au menu principal, eh ben, en fait, il faut que tu maintiennes start pendant genre 3-4 secondes. C'est long, c'est chiant, ça te donne un menu en fait qui est pas systématiquement accessible. Alors on peut toujours appuyer sur le bouton reset de la console, c'est la même fonctionnalité en fait, mais moi je trouve ça très étrange de pas avoir au moins rajouté, je sais pas, un bouton pour afficher le menu, parce que en termes d'interface, du coup, c'est vieillot.
Ah, mais là, tu respectes
pas intelligent.
Tu respectes pas
l'antiquité.
Le côté authentique du truc, quoi. Si
ouais,
tu
mais
rajoutes un bouton.
Le côté authentique, à partir du moment où il devient contre-productif, pour moi, c'est une vraie erreur de le conserver. Et pour moi, Sega a fait vraiment une connerie de sortir cette manette à trois boutons avec la console. Ah bah, alors tu mettais pas Street 2 dans le line-up.
Tu vois, mais c'était le même débat sur la PS1 classique avec la manette normale face à la manette DualShock.
Et voyons où en est la PS classique aujourd'hui, malheureusement.
Même
quoi,
parce qu'après, les problèmes de la PS classique étaient ailleurs. Mais je me rappelle qu'on en avait même parlé pendant le podcast. Ouais, pourquoi pas la DualShock, pourquoi etc. Je l'avais dit à l'époque de la PS classique, le packaging fait que c'est un trip nostalgique. Et le trip nostalgique à l'époque de cette PS1 d'origine, c'était une manette non DualShock. Là, c'est pareil. Moi, ma Mega Drive, telle que je l'ai eue à l'époque avec Altered Beast
mais c'est ce
en
qu'ils
pack-in,
veulent faire, en fait,
c'était une manette 3 boutons.
Bah oui,
donc,
c'est ce qu'ils veulent faire.
Pour l'authenticité,
ils vont jusqu'au bout du truc, quoi.
Pour l'authenticité, je comprends. C'est ça, moi, ça me gêne pas tant que ça. Parce que surtout que Street Fighter, c'est pas comme s'il était pas disponible sur 11 millions de machines.
Ouais, mais il est dessus.
Il est dessus. Mais donc, si tu veux absolument y jouer comme ça, bah, tu te prends une manette. Soit tu te démerdes pour jouer avec le bouton start, comme tu le décrivais. Soit tu te prends
Tu n'y joues pas.
Une manette. Oh, tu sais. Soit tu te prends une manette 6 boutons, qui est d'ailleurs compatible PC, Mac aussi, donc tu peux y jouer ailleurs.
Elle a combien la manette 6 boutons?
C'est un peu. C'est une vingtaine d'euros, je crois.
D'accord.
Mais. Il y a quand même, elle a quand même de gros atouts par rapport à ses concurrentes directes, déjà en termes de catalogue de jeux, de qualité de l'émulation, parce que ils ont confié ça à M2, qui est le studio qui par exemple avait fait les classiques Sega 3D sur 3DS ou qui fait la gamme Sega Ages en ce moment sur Switch. Donc ils sont quand même assez costauds. Ils se contentent pas juste de prendre des ROM que tu trouves sur internet et de les foutre sur un émulateur. Oui. Il y a du travail de compatibilité qui est fait. Donc ça c'est bien aussi.
Puis Yuzo Koshiro pour les musiques des menus aussi.
Il y a Yuzo Koshiro qui a composé une musique spéciale avec le matos d'époque pour le menu de la Mega Drive Mini. Et un petit détail, alors ça c'est vraiment les historiens du jeu, enfin les gens qui aiment l'histoire du jeu vidéo, c'est que si vous changez la région de votre console, eh bien vous aurez le pack. Par exemple, si un jeu est disponible était différent au Japon et en Occident, parce que l'Europe et les États-Unis c'est la même chose, mais si certains jeux L'Occident. Avaient une jaquette différente ou un titre différent ou avaient des détails qui changeaient entre le Japon et l'Occident, bah, si vous passez votre console en japonais, bah, vous aurez le menu japonais avec les jaquettes etc. et la version du jeu telle qu'elle était disponible au Japon.
On pense forcément comme à Castlevania, Vampire Killer évidemment, qui sera pas censuré dans sa version Jap.
Tueur de vampire.
Donc ça c'est pas mal, parce que ça t'augmente presque artificiellement le nombre de jeux qui est disponible sur ta console, alors qu'il est déjà de base largement supérieur à par exemple à une NES Mini ou à une Super NES Mini.
Ouais. Justement, exactement. D'ailleurs, il y en a 42 des jeux, 42, plus de bonus. Et toi, Thomas, t'en as pensé quoi de ces jeux chelous?
Alors, je trouve que le line-up est vraiment super chouette.
Ça va.
C'est varié. Alors, il y a toujours quelques jeux OSEF,
Virtua Fighter 2,
qu'on se retape, Vectorman, qu'on se tape sur toutes les compiles dérivées de la Mega Drive. Après, on a des très grands jeux aussi de la console. On a fait un petit peu le listing, comme je vous le disais. On a aussi des jeux de fin de gen ou des jeux qui coûtent la peau des fesses.
Une blinde.
aujourd'hui, sur les jeux de fin de vie, on a Monster World 4 qui est super chouette, Megaman de Wily Wars qui est une compile des trois premiers Megaman qui étaient sortis sur Mega Drive qui vaut une fortune. Ah ouais. Quand il y a 10 ans, la cartouche coûtait déjà 150 balles, donc j'ose pas imaginer aujourd'hui.
Ça se trouve, je l'ai celui-là.
On a Landstalker qui est notamment proposé en français, on a le Contra de la Mega Drive qui est absolument fantastique. Des jeux à licence, Castle et World of Illusion, qui sont quand même deux super jeux de plateforme. Gunstar Heroes qui est sans doute l'un des Rod and Gun les plus fabuleux qui ait jamais été créé. Castlevania The New Generation, on en a parlé. Comic Zone, le très nerveux Thunder Force 3. J'ai surkiffé rejouer à Thunder Force.
C'est surprenant qu'ils mettent le 3 et pas le 4 quand même, parce que le 4 est,
oh, attention,
est
là,
très 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 réfuté au sein de
la communauté des shoots.
Mais le 3 fait vraiment le taf.
Si tu compares, parce que des compilations Mega Drive, il y en a eu plus qu'on ne peut les compter.
Depuis 2005, je crois, un truc comme ça.
Même avant ça, j'ai une compilation de jeux Mega Drive sur Mega Drive même. En fait, j'ai une cartouche avec multijeux dessus.
C'est vrai qu'il est compilé déjà à l'époque.
Et donc, il y a des compiles Mega Drive, il y en a des tonnes, et toujours avec les mêmes jeux. Et là, ils ont changé leur fusil d'épaule. En fait, plutôt que de se contenter de prendre uniquement les hits grand public que tout le monde connaît sur Mega Drive,
et que tout le monde a 50 fois.
Voilà, il y en a quelques-uns évidemment, hein, les incontournables comme Sonic et Sonic 2, etc.
Et toujours pas Sonic 3. Ça, je comprends jamais.
À cause de Michael Jackson.
C'est possible. Ouais. Question de droit, tout ça, machin bidule.
Mais à côté de ça, donc il y a plein de jeux un peu plus hardcore. Tu sens que le public visé avec la Mega Drive Mini, c'est vraiment les joueurs chevronnés, les purs de l'époque, tu vois. C'est pas du tout le même délire que la Super NES Mini, par exemple, en termes de catalogue de jeux. Et en plus, parce que j'ai regardé la vidéo Digital Foundry, tu sais, ils sont vraiment rentrés dans
l'analyse technique
dans le détail sur la machine. Alors ils expliquaient que c'était pas parfait. Parce que par exemple, le filtre, les faux scanlines que tu peux activer pour donner l'impression que tu joues sur une télé d'époque, il n'est pas très réussi. Apparemment, c'est plus désagréable.
C'est plus désagréable
qu'autre chose. Il y a des petits problèmes de latence aussi, d'input lag entre le moment où tu...
T'appuies
sur le bouton et au moment où l'action est prise en compte par le jeu.
Ouais, je n'ai pas trouvé ça très handicapant, moi, personnellement.
Mais voilà, il disait pour respecter la réalité, cet input lag existe, mais il est bien plus faible que par exemple sur la dernière compilation Mega Drive qui est sortie sur PS4, Switch, etc. Et il est équivalent à ce que subissaient les autres machines, genre la NES Mini ou la Super NES Mini, etc. Et mis à part ça, l'émulation est de grande qualité, et même le son, où là ça pouvait être désastreux par exemple sur les machines Dat Games dont je vous parlais, etc. Là le son est quand même assez clean dans l'ensemble. C'est d'un point de vue purement technique, c'est une belle machine.
D'accord.
Et on finit le line-up avec
les deux jeux bonus.
Alors il y a Tetris Mega Drive.
Et bon, ben c'est bien.
Bah, vous en faites ce que vous voulez.
C'est toujours bien Tetris.
C'est Tetris. Alors, ce qui est rigolo,
la 100 000e version.
Ce qui est rigolo, c'est que t'as des paysages, enfin des images en fait qui habillent le fond, qui changent toutes les 10 lignes. Et des fois, ils te sortent des trucs, mais complètement random. D'un coup, pouf, t'as une image d'iguane scannée qui apparaît comme ça. Et c'est tout con. Mais en fait, c'était tellement débile que ça m'a suffi à me dire, oh putain, vas-y. Gère bien ta partie.
Tu veux voir d'autres images.
Je veux voir le plus de background possible, en fait, parce qu'il y a des trucs vraiment débiles, d'autres un peu moins. Mais voilà, c'est Tetris dans sa forme la plus simple.
Mais tu sais pourquoi il est là?
Non.
Parce que c'est un jeu inédit.
Oui, non, parce qu'en fait, le Tetris Mega Drive, en fait, il a été produit sur cartouche, mais retiré in extremis de la vente à cause des droits liés à Tetris, etc., avant sa mise officielle sur le marché. Ce qui fait qu'il y a genre, je crois qu'il y a moins d'une dizaine de cartouches qui se sont retrouvées dans la nature, dont une qui est chez l'Australien, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui a une collection absolument incroyable. Et je crois que c'est des centaines de milliers d'euros pour une cartouche pour ce Tetris Mega Drive, parce que je te dis, il y en a peut-être moins de 5 connus dans la nature. Donc en fait, c'est un jeu qui est jamais sorti, qui était fini, qui était prêt, mais qui était pas qui a jamais été sur le marché, donc là c'est un moyen de découvrir ce petit morceau d'histoire en fait, même si c'est vrai que c'est pas forcément le jeu le plus intéressant de la machine. Et Gradius, alors là par contre c'est encore un cas à part, c'est un cas différent,
c'est Darius d'ailleurs.
Darius.
Gradius n'est pas sorti sur Mega Drive, Darius, Darius qui est
qui n'était pas sorti non plus
le sur Mega Drive, qui est un shoot 2D à l'ancienne, très dur. Alors vraiment, vraiment très dur, je me suis cassé les dents dessus. C'est intéressant parce que c'est un shoot qui te permet d'utiliser vraiment le tir primaire et secondaire en même temps. Donc ça fait des combos qui sont assez sympathiques. Je suis pas allé forcément très très loin, mais j'ai passé un bon moment dessus. Sauf que revient le problème de la gestion de sauvegarde dont on parlait. C'est que si tu veux essayer de compenser un petit peu la difficulté d'époque par des quick save quand tu réussis à t'en sortir, bah c'est problématique parce que si tu appuies sur start et qu'ensuite tu maintiens le bouton pour afficher le menu, ta partie reprend. Si tu fais l'inverse, il faut que tu gères ta partie le temps que l'écran de sauvegarde apparaisse. Voilà, c'est un sympathique bonus, mais qui illustre aussi parfaitement à quel point c'est une connerie d'avoir mis la manette à trois boutons sans l'équiper d'un dispositif en plus pour ne serait-ce qu'afficher le menu. Ou alors, il faut jouer à côté de la console et avoir un doigt prêt à appuyer sur reset pour le faire apparaître. Donc, c'est un bonus sympathique, mais qui met en avant justement les quelques limitations techniques.
Les lacunes. Parce que là, pour le coup, ce jeu-là a été porté sur Mega Drive spécialement pour l'occasion, parce qu'en fait il était jamais sorti. Il y a les développeurs d'origine plus M2 et tout, ils se sont mis à plusieurs dessus pour créer t'as limite un jeu inédit, un jeu Mega Drive inédit dans cette collection là donc ça c'est intéressant là aussi d'un point de vue histoire du jeu vidéo.
Et tout ça pour 80€, donc c'est sorti vendredi.
Ça sort le 4 octobre.
Ah non, ça sort le 4 octobre, pardon.
Tu sens quand même globalement que c'est pas, le, comme diraient les Américains, le cash grab, tu vois, le truc qui a été fait à l'arrache.
Pas cette fois.
Oui, ils l'ont peaufiné, ils ont bien fait attention.
Et il n'y a qu'à voir la ludothèque.
Ils ont bien choisi les titres.
Il y a des jeux fantastiques dans
la ludothèque. 42 jeux, c'est toujours 10 jeux de plus que ce qu'on trouve chez Nintendo sur ses consoles.
Ouais, même 20.
20 jeux de plus. C'est pas une,
je sais plus,
trentaine qu'il y en a sur
il me semblait aussi moi, mais bon,
sur la Super NES.
Ah, moi j'étais resté sur une vingtaine.
C'était 20, ouais, je peux me tromper hein,
c'est... Ah, je crois que c'était une trentaine moi.
Non, Sega a été particulièrement généreux, ouais. Même s'il y a quelques trucs.
On n'a pas la boîte de la Super NES Mini là dans
Columns,
le coin.
Columns, Space Harrier 2, il y a des jeux un petit peu plus anecdotiques,
mais, téléphone.
Pour le reste, il y a vraiment des très très grands jeux de la Mega Drive, dont certains disponibles en français, juste si jamais vous vous posez la question. Les Landstalker, Legend of Thor, etc. sont proposés dans leur version française d'époque.
Ouais. Parce que c'est une question qu'on se posait.
Voilà, non, mais il y a beaucoup de gens qui ont été embêtés par notamment de Legend of Zelda, Zelda 3. Quand il est ressorti sur Super NES Mini parce qu'il était en anglais et que si tu veux y jouer avec tes enfants pour leur montrer à quoi tu jouais à l'époque, c'est problématique. Là, vous pouvez y aller. Il y a pas mal de jeux, des jeux d'aventure en tout cas, qui sont proposés dans leur version française.
Et bien parfait, voilà pour cette mini console, une de plus. On ne sait pas quelle sera la prochaine.
La PC Engine Mini.
Oui, c'est vrai, on sait déjà. C'est con parce que j'allais dire, et s'ils faisaient la PC Engine Mini, mais oui, ils vont la faire.
Bah oui,
parce qu'elle est déjà tellement petite que tu te dis, attends, mais.
Dont les jeux. ont été portés par M2 aussi c'est la même équipe
dans ta vidéo d'impression.
Allez la voir si la PC Engine vous intéresse. Je pense qu'elle est plutôt riche en informations.
Absolument.
Moi, si j'ai un match tennis dessus, ça me suffit. Oui, c'est pas grave, ils vont le mettre quand même en bonus.
C'est une Traz Edition.
ça sera juste pour ça. 2 millions d'euros, écoutez, ou pas. Eh bien, voilà, c'est parfait. On a fait le tour sur cette machine. Donc, vous pouvez toujours regarder la vidéo d'unboxing et de démonstration de la machine sur Gameblog avec vos commentaires, il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez envie de l'acheter ou pas, dites-le nous dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas content, ça sera la faute de Thomas. Voilà, tout simplement.
Ok, très bien.
Tout de suite, nous allons passer à l'anniversaire, n'est-ce pas ?
Stars !
C'est vrai ? J'entends un bruit.
Ouais, moi aussi, j'entendais un bruit bizarre.
Ouais.
Quelqu'un bizarre. L'anniversaire de cette semaine, c'est
François Mitterrand.
Resident Evil 3.
C'est vrai ? T'as peur ou pas ?
Et oui, ça fait 20 ans. Et là, ça me trouve le cul, comme dirait l'autre.
Comme dirait
c'est
François Mitterrand.
20 ans. 20 ans pour Resident 3, qui sort déjà. Un peu à un moment.
Compliqué.
Un peu compliqué pour la série, parce qu'il doit finalement être. Il est presque mis en concurrence avec Code Veronica.
Il sort après Code Veronica, non ?
Peut-être un peu après Code Veronica.
Ah, il sort après Code Veronica qui est sorti sur Dreamcast, dont, sur lequel on bave sur, dans tous les magazines en se disant ah putain, trop bien. Et puis là, le 3 est sur PS1.
Tu vois, moi qui suis. Donc c'est l'été 99 quand ils en parlent juste avant la sortie dans les magazines. Moi qui ai 14 ans à ce moment-là, j'ai les magazines, bah, j'adore Resident. Et je me rappelle, hein, ça m'avait marqué, que la presse était un peu dure avec Resident 3.
Complètement.
C'était d'un côté t'avais Code Veronica, c'était voilà la révolution à juste titre, hein, magnifique hein, avec les décors en 3D etc, super. Mais Resident 3 c'était un peu une redite. Quand tu lisais cette impression là, ça changeait pas beaucoup par rapport à RE2.
Je crois que dans PAD non, hein, dans PAD vous aviez été très juste avec Resident 3.
Je sais plus
si c'est pas Jean qui avait fait le test.
Je sais rien.
Et Jean étant un homme de bon goût, lui avait mis une super note en disant que c'était un des meilleurs Resident voilà. Et à juste titre.
Peut-être quelques exceptions mises à part, mais je me souviens avoir lu plusieurs articles à l'époque qui n'étaient pas forcément tendres avec Resident Evil 3. Et le jour où j'ai pris le jeu en main. Alors que j'adore Code Veronica, hein, ne me méprenez pas. Mais ouais, quand j'ai pris Resident 3 en main,
en
je me suis dit, mais il est génial. L'idée de ce Nemesis, parce que on va dire que c'est une évolution du Mr. X qu'on avait dans le scénario B de Resident Evil 2, mais encore plus hardcore, en fait, parce que Nemesis il est plus rapide, il a des armes, il te poursuit encore plus souvent que
travers que Mr. les X. Murs, il te
et c'est ce cri stars qui te
quand tu
pire qu'une oie.
L'ambiance ouais. Et l'ambiance qui se dégage du truc, enfin même en termes de structure narrative dans Resident 3, il changeait par rapport à Resident 2 avec la notion de temporalité qu'il y avait dans l'aventure, les
et de choix aussi,
etc.
Ouais.
C'est franchement, moi je pense sincèrement que je le mets dans mon top 5 de mes Resident préférés, easy.
Et dans le top 20 de Resident.
Quoi, tu hésites à le mettre en
ah,
tête.
Ah, c'est mon premier.
Ah, c'est ton
ouais, préféré de tous
Cache,
les Resident.
Comme ça.
Bah, évidemment, mais attends, mais en plus, il avait des idées qui n'ont jamais été réutilisées par la suite, notamment l'esquive,
ouais.
Qui est, je sais pas, un truc qui, moi, me paraît assez logique quand tu te retrouves face à des bestioles
et que t'essayes de survivre.
C'est d'avoir au moins une possibilité de pas être quelque chose de statique qui se fait que pivoter sur lui-même. Enfin, ça pour moi c'était.
Il était moins raide que Code Veronica par
mais
exemple.
Mais oui, mais complètement. Il y avait l'esquive, il y avait les moments cruciaux où le temps s'arrêtait, tu devais prendre une décision bien précise.
Affronter Nemesis ou fuir.
Exactement, de
ou
ce genre de choses. Mais. Pourquoi pas avoir continué dans cette direction-là avec Resident
bah parce qu'il a mal été accueilli à l'époque, hein, justement.
Ben ouais, mais c'est quand même bizarre, quoi. Alors que je pense que ça doit être le meilleur que Mikami ait fait, peut-être. Peut-être le 4 marque aussi bien, mais voire même super bien. Mais dans la vieille formule, je pense que c'est le meilleur.
Et tu vois, outre le côté survival horror, une fois que parce que on sait comment font les joueurs de Resident, hein, quand tu l'as terminé une première fois en te chiant dessus, après tu le refais pour être de plus en plus rapide et etc.
Et débloquer un milliard de bonus.
Voilà. Et tu pouvais apprendre à te la péter avec ce fameux bouton d'esquive, par exemple. Quand tu connaissais bien le jeu et que tu maîtrisais bien son gameplay, ensuite tu pouvais faire des affrontements super stylés contre Nemesis, par exemple, où t'attendais qu'il se rapproche, qu'il essaye de te choper, esquive, nana, tu te replaces, tu tires. Enfin, t'avais des possibilités que t'avais pas forcément avec les autres épisodes. Et Jill Valentine, toujours, est superbe héroïne de Resident. Après, le jeu a été réédité sur moult plateformes. D'ailleurs, les rééditions de Resident 3 ont tendance à être assez chères encore aujourd'hui sur Dreamcast, sur GameCube. Est-ce qu'il est sorti ailleurs ? Non, je crois que sur Dreamcast.
C'était les deux plateformes que j'avais en tête. Ouais, moi je l'ai fait sur GameCube la première fois avant de le racheter sur PS1.
Et donc, ouais, il est génial. Tout pousse à croire qu'on aura le droit à un remake aussi de ce Resident 3
si
sur les consoles actuelles. Ça serait tellement dommage qu'ils ne le fassent pas, vu la qualité du remake de RE2. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, la version originale est toujours excellente. D'ailleurs, on parlait des rééditions. Sur Dreamcast, par exemple, vous aviez plusieurs niveaux de difficulté et vous pouviez aussi changer la tenue de Jill. Et en fonction du niveau de difficulté, vous pouviez vous retrouver avec des coffres remplis d'armes, d'armes super puissantes dès le début. Alors que la version PS1 originale, elle était plus à l'ancienne, tu sais, où si tu voulais les bonus, fallait au moins le terminer une fois dans certaines conditions, etc.
Et s'il y avait un remake ?
Ah, c'est ce qu'il vient de dire.
Non, est-ce qu'il serait toujours modélisé avec Julia Vogt?
Est-ce que ce serait Julia Vogt qui serait modélisée? Ah. Ce serait tellement bien.
C'est pas grave,
je sais pas.
Ah là là, Julia, si tu nous écoutes, fais tout ce qu'il faut pour être dans les mecs.
Et on parle aussi
Elle nous écoute souvent.
Hein, on parle de Nemesis, mais il n'y avait pas que lui. Hein. Je me rappelle du ver géant dans le. Je sais plus si c'était dans un cimetière ou dans. T'as un boss, tu sais, que t'affrontes dans RE3 où c'est un ver géant qui était assez intéressant aussi. Enfin, il y avait plein de. Et alors mon cerveau me joue peut-être des tours, mais je crois qu'aussi il y avait un système de persistance des emplacements des ennemis, ou je sais plus quoi, si tu les avais laissés quelque part, ils étaient toujours là quand tu revenais, ou un truc comme ça. Mais je peux me tromper, je confonds peut-être avec autre chose. Mais en tout cas, d'une manière générale, Resident 3 est un super épisode, injustement mis de côté au moment de sa sortie, et qui mérite vraiment d'être mis dans le haut du panier des épisodes de la série.
Ouais, 20 ans.
Bah 20 ans, et il a 20 exactement. Ans. Ce qui est dingue. Ouais, donc ça serait parfait pour le ressortir.
C'est peut-être le moment.
Bah, on va le ressortir.
Ça se trouve, au moment où on parle, là, il est sorti. Comme il est déjà en train de. Ah bah Resident 3 Remake, voilà, il est là. Ah bah voilà, il est sorti, il est disponible. Bah, et sur Switch. Voilà, si... alors parfait.
Si je devais. Faire émettre une supposition.
Une supposée théâtre.
Je pense que le développement de Resident 3 Remake est déjà bien avancé chez Capcom. Oui. Je pense.
Ok, bah dans ce cas-là.
Mais je me base sur rien, c'est juste une supposition de ma part.
C'est vrai ? Ok. On prend un pari ou pas ? Non, je déconne.
Et on en reparlera dans 10 ans si sur Gameblog.
Alors, il y a 10 ans. Souvenez-vous, je vous avais dit que. Ouais. Il faudrait faire une autre rubrique, nos vieilles prédictions.
Vieilles prédictions moisies. Ok, ça marche. Bah, super pour cet anniversaire. Merci, Mahut.
Attendez, je vais appeler Maxime Gerassi vite fait.
C'est vrai. Monsieur Prédiction.
Ouais. Et là, il va m'envoyer un texto la semaine prochaine pour
putain,
me dire.
Putain, comment tu sais ?
Pour me dire, non, mais pourquoi vous foutez de ma gueule dans le podcast comme ça ?
Why are you footing of my face ? Ok. Eh bien, tout de suite, ça va être la rubrique hors-jeu, en fait.
Eh oui, encore un hors-jeu, cette semaine.
Et cette fois, je me tourne vers toi, plus.
Bah oui, encore une fois, donc.
Pourquoi ?
Parce que c'est encore pour moi.
Yeah. Cette fois, c'est pas un film, c'est pas un.
Non, c'est pas un film, c'est un truc qui se lit. C'est pour ça que c'est encore plus étonnant que ce soit moi qui le fasse. Parce
avec du texte et tout ça ?
Ouais, avec du texte, mais aussi des images, beaucoup d'images,
c'est
en fait.
C'est des images, ça va.
The Commodore Amiga Visual Compendium. On vous avait déjà présenté il y a quelques semaines, mois maintenant, un livre de chez Bitmap Books qui traitait des point and click, qui était, enfin, on est tous tombés sous le charme hein, de cette édition. Et là, bah moi j'ai craqué pour la version Amiga. Alors ils aiment bien faire ça avec d'autres consoles. La NES, je crois, il y a eu droit. Le Commodore 64, il y a eu droit.
La Super NES aussi.
La Super NES aussi. Moi, vous connaissez tous mon amour pour l'Amiga. Et je me suis dit que.
Alors que l'Atari, c'est la meilleure machine de tous les temps.
Mais bon. C'est toi la meilleure machine de
tous les temps. J'adore la couvre.
Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait avec les précédents livres dont on vient de parler. C'est-à-dire que c'est un livre qui est essentiellement visuel, avec de magnifiques, mais vraiment de magnifiques reproductions de screenshots de l'époque. Ils ont même recréé. Sur une double page, alors c'est difficile pour seule main. Ils ont même recréé le Guru Meditation sur une double page, comme ça, avec un petit commentaire, évidemment, de quelqu'un qui était assez proche du développement. On retrouve d'autres images de jeux qu'ont fait la légende de l'Amiga. Alors il y a Defender of the Crown, par exemple, qui a le droit à une double page. Il y a Zach McCracken, voilà, un de mes premiers point and click, et si c'est pas mon préféré, c'est pas loin. Zach McCracken de chez Lucasfilm Games à l'époque. Je vais essayer de trouver les autres pour la vidéo, mais Force Samouraï, Croisière pour un cadavre, et on retrouve en plus donc de toutes ces belles images, mais vraiment magnifiques images, et ben on retrouve des interventions, des petits bouts d'histoire, des anecdotes de la part de personnes qui ont participé à la légende de l'Amiga. Évidemment, on pense en premier lieu à R.J. Mikal, qui est un des développeurs de la machine, qui est un type qui a une gouaille fantastique, qui se marre tout le temps. Je sais plus si j'avais parlé d'un documentaire sur l'Amiga où il était fabuleux de voir comment il était, comment il racontait le développement de la machine en elle-même. Avec Jay Miner qui venait avec son toutou et lui qui avait l'impression qu'en fait le toutou il approuvait les décisions concernant les éléments qui allaient être dans la machine.
Ils étaient fatigués un peu, non ?
Bah ouais, c'est ce qu'il dit. En fait, il le dit comme ça dans le documentaire. Jimmy Cal, il dit on était tellement crevé à la fin que j'avais l'impression que c'était le chien qui validait comme ça en hochant la tête. Et il le dit en se marrant et tout. Enfin, c'est assez génial. Mais on a des interventions aussi de Jim Sachs, absolument.
Voilà. Et ils disent bien, Jim Sachs. pushed the boundaries of the graphics possibilities.
Bah bien sûr qu'il a
pushed Amiga.
Bah bien sûr qu'il a pushé
les boundaries de l'Amiga au niveau graphique.
Mais il n'y a pas que lui qui a pushé les boundaries. On a aussi David Braben qui intervient, Sid Meier évidemment, parce que Civilization, Colonisation sont sortis sur Amiga. Ron Gilbert aussi, hein, qui a participé à l'élaboration des plus grands point and click. On peut voir évidemment une grosse partie consacrée à Team 17, Lore of the Temptress.
Le premier jeu de Charles Cecil.
Le premier jeu de Revolution Software et de Charles Cecil qui se retrouve donc en double page. Et là, on va avoir du mal à le montrer. Mais moi, c'est le jeu qui m'a appris en français, parce qu'il était traduit en français, l'existence du mot gonade. Voilà. Il y a des mots comme ça qu'on apprend dans les jeux.
Mal. C'est Boris Johnson en photo sur la.
Quand il était jeune, ouais.
Mais n'importe quoi. Donc, Lore of the Temptress qui est pas souvent cité, mais qui est un point and click vraiment, vraiment génial.
C'est un génie, Charles Cecil.
Il y a même des couves. Vous voyez, il y a les couves de Kickoff 2, la couve de Lemmings, Lemmings DMA Design, qui eux aussi ont droit à un bel encart à l'intérieur. Bref, il y a tout ce que vous voulez apprendre sur l'Amiga et ouais, bah voilà, Speedball, évidemment les Bitmap Brothers qui ont fait aussi des jeux ça se fait plus des studios comme eux qui sont capables de pondre hit sur hit comme ça tous les 6 mois. Bref, n'hésitez pas, ça coûte 29,99 €, soit environ 34 € sans les frais de port. Les frais de port, vous allez
attendez le hard Brexit, ça vaudra 5 €.
J'allais le dire.
Ça va douiller un petit peu avec les frais de port. Je crois que j'ai dû payer 70 € pour avoir celui-ci et le point and click et le point and click en plus. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, c'est ultra bien emballé. C'est ultra bien protégé, le truc il arrive chez vous, c'est comme si vous aviez envoyé le truc le plus précieux au monde et qu'il avait vraiment fait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait zéro pète.
Nickel, là.
Ah ouais, il est vraiment, mais c'est parfait. Des fois ils mettent des petites cartes postales aussi avec.
Il y en avait une, la trace de la sortie tout à l'heure.
Voilà, il y a des petites cartes postales qui sont avec aussi de temps en temps. Donc vraiment n'hésitez pas. Alors le seul bémol évidemment pour certains d'entre
c'est que
c'est entièrement en anglais. Mais même comme ça, allez prendre un dico, quoi. Tout simplement, enfin je veux dire.
En même temps, il n'y a pas 3 millions de tonnes de texte hein, sur les images, j'ai vu.
Pusher les boundaries,
il y a quand même pas mal de texte.
Les
et puis c'est une mine d'informations pour les gens qui sont comme moi passionnés par cette machine qui restera la meilleure de tous les temps. C'est super bien. Voilà.
Parfait. Bah écoutez, merci hein, beaucoup.
C'est ton Atari ou tu peux te le coer
non. Mais je pense qu'ils ont fait la même chose pour Atari.
Ils font pas mal de plateformes en fait au fur et à mesure. Hein. Là, on voit sur la tranche que c'est le deuxième numéro de cette édition-là. Mais ils ont fait la Master System récemment. Je crois que c'est le cinquième de leur bouquin. Et ils vont continuer.
Il n'y a pas Metal Slug.
Alors, c'est eux qui vont faire un bouquin sur Metal Slug aussi.
Ouais, ouais.
Et ils ont déjà eu l'autorisation d'SNK pour faire un bouquin un peu de ce style-là sur la Neo Geo qui s'appelle pas pour le coup Visual Compendium, mais Visual History, qui parle de l'identité visuelle de la console et, excusez du peu, hein, la Neo Geo en termes de design, c'était quand même quelque chose. Et tu l'as dit, il y a un souci du détail sur les reproductions en fait, des backgrounds, etc., qui est absolument fabuleux. Si vous allez sur leur boutique, jetez un œil à ce qu'ils font parce que tous leurs livres sont extrêmement richement documenté.
Et laissez votre portefeuille très loin de votre main parce que ça risque de charcler pas mal.
Mais ils font un boulot extraordinaire, Bitmap Books.
Ouais.
Et on les embrasse.
Donc bitmapbooks.co.uk si ça vous intéresse hein, pour ce bouquin et plein d'autres.
Allez-y.
Voilà, si vous êtes nostalgique ou si vous voulez juste vous intéresser à l'histoire du jeu vidéo, écoutez, hein, c'est parfait. Hein.
Voilà, c'était mon anecdote.
D'accord. Tu pourras m'offrir celui de l'Atari après ou pas?
Celui de l'Atari. Je sais pas s'ils ont prévu de te faire un truc sur l'Atari ST.
Bon,
c'est tellement une machine de merde. Ça va, je plaisante. Détendez-vous. Détendez-vous.
Ben voilà, hein, je crois qu'on a fini ce podcast numéro 505.
C'est bon, on peut aller pisser?
Absolument.
Non.
Ok.
T'attends 3 secondes. Et voilà, ben merci messieurs. Je voulais quand même en profiter pour dire merci aux modérateurs, n'est-ce pas, tous les modérateurs qui nous soutiennent. C'est vrai qu'on le dit jamais assez. Et comme je vous le disais dans les messages privés, il faudrait qu'on organise un petit truc quand même entre nous, entre les modos et nous. Donc allez-y, n'hésitez pas à me dire.
Un petit fight club.
N'hésitez pas à me dire qui est partant, quand, et voilà, qu'on se réunit tous.
Chez Gameblog, on s'est foutu sur la gueule pendant 2 heures.
Parce que je sais qu'il y en a plein qui habitent un petit peu partout en France, donc c'est pas forcément évident
Bon, on fait une tournée, nous.
De venir.
On fait un petit plus.
Une tournée avec le Game Block Bus.
C'est comme les émissions des matinales de radio qui font parfois des semaines depuis les stations de ski.
Pourquoi on ferait pas ça?
On va passer une semaine chez chaque modérateur.
Pourquoi on fait pas ça? Peut-être qu'on a pas les moyens.
Le mec qui se réveille le matin, il y a toute l'équipe dans son salon en train de travailler.
Un petit tour à Deauville une semaine. À Courchevel,
on loue un vieux truc Volkswagen, on met les PC à l'intérieur. Trace conduit, nous on gratte derrière.
Exactement.
Ah, ça pourrait être pas mal.
Voilà, donc merci au Modo. Mais à tous ceux qui nous soutiennent,
qui œuvrent dans l'ombre,
notamment à Kiflam qui a arrêté la modération parce que voilà, ça faisait plus de 10 ans je crois qu'il était dessus. Donc merci encore, continue du suivre, j'espère que voilà, tu vas toujours continuer à nous regarder, à nous lire. Et puis merci à tous les autres, on va pas tous les citer sinon ils vont tous être jaloux. Mangouste et tous les autres, voilà, je sais pas.
Ah,
tous
les citer, voilà.
On va pas tous les citer, mais
ah, j'ai cité de Kiflam, Mangouste, il y en a plein d'autres. Furio et compagnie, hein, si j'ai pas de bêtises.
Furio.
Moi j'appelle Furio parce que des fois il s'énerve, c'est tout.
Ah bon?
Voilà.
Je suis jamais énervé.
Bon ben voilà, merci beaucoup. Personne d'autre, rien à ajouter? Non, c'est bon.
Bah non, des bisous au Modo.
C'est parfait.
Bah
ouais. Et ben écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'actu. Et puis d'ici là, ben jouez bien, portez-vous bien et lisez Gameblog et répandez la bonne nouvelle autour de vous. Et allez sur ce site pour acheter Bitmap Books, tous les bouquins qu'il y a dessus, sauf celui-là. Voilà. Merci à tous encore et à très très bientôt. Ciao.